avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Salut, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin, Pascal CV pour l'émission On en jase. Pour nous joindre, évidemment, 418-971-1021. C'est la meilleure façon de procéder. BLVD.fm avec notre web radio, BLVD 102.1 avec notre application gratuite disponible sur App Store et Google Play Store. Abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 102.1 et les haut-parleurs intelligents vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Show différent d'habituellement, pas de caucus aujourd'hui. Emmanuel Latraverse a été en non-disponibilité. Antonine Iaccarini, pour ceux qui se posent la question, sera de retour lundi prochain, 4 mai. Pour ceux qui s'en peuvent plus d'entendre Anto, Pascal, elle va être de retour
d'attendre. Sa sortie en temps.
Exactement.
Oui, d'attendre Anto, mais elle va bien.
Eh oui.
Puis elle revient.
Exactement, elle devrait être de retour par Zoom, là, question de faire un petit retour progressif avec l'opération qu'elle a eue. Mais on va être très content de jaser à nouveau avec Antonine Iaccarini à compter de lundi prochain. Bon, même si c'est un show différent, c'est un show qui est bien rempli. On va immédiatement prendre les manchettes, parler avec Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Grosse annonce de Christine Fréchette en termes de PME, aide financière aux PME. Hier, c'était la mise à jour économique. Lundi, ça a été la création de ce fonds souverain canadien qu'on ne comprend pas trop à quoi ça va servir. Alors, on a un spécialiste, Gabriel Giguère, va nous en parler. On va également revenir sur les chauffeurs à rabais, Pascal, parce que il y a une personne, une citoyenne au Québec qui a été victime d'un accident, qui a fait une sortie sur ses médias sociaux, et on va lui parler.
Oui, c'est celle à qui on parle tout le temps, Claudia Boucher, en fait, puis elle suit le dossier, c'est sûr, elle a été impactée par tout ça, puis maintenant, elle connaît d'autres survivants, mais aussi des gens qui ont perdu de leurs proches. J'ai bien hâte d'aller jaser avec elle un peu plus tard à l'émission. Je vous reviens sur la nouvelle. Mais d'abord, ce qui donne le ton à la journée, c'est beaucoup cette annonce de Christine Fréchette, donc la première ministre, qui a parlé d'une baisse d'impôts. Rapidement, on voit ça, on se dit, ben oui, on s'en vient en campagne électorale et c'est souvent la recette de la CAQ. Hein? Alors, baisse d'impôts qui va profiter à 75 000 petites entreprises. Ce ne sera pas pour vous, mesdames et messieurs, mais vraiment pour ceux qui ont des entreprises. Est-ce que c'est ce qu'a appris la presse? Donc, on note que cette mesure-là n'était pas inscrite dans le dernier budget provincial qui avait été déposé en mars, mais ça ne figurait pas non plus dans les promesses faites par Mme Fréchette pendant sa course à la chefferie. Est-ce que c'est ça, les petits bonbons qui allaient s'en venir selon le candidat ou la candidate élue, mais c'est un allègement fiscal qui va permettre à ces petites entreprises-là d'économiser jusqu'à 5 000 $ par année. Puis des fois, ben, ça fait la différence. À vous de juger ce que vous en pensez. Il y a eu également aussi mise à jour économique du gouvernement de Mark Carney hier par le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Et c'était un déficit prévu pour l'exercice financier 2025-2026. Ça sera moins élevé que prévu. Il va s'établir à 66,9 milliards de soit 11,4 milliards de dollars de moins que ceux qui étaient envisagés, puis c'était 78 milliards de dollars. Là. Donc, je ne veux pas faire saigner du nez personne. En gros, le déficit est moins gros, mais quand même énorme.
Oui, c'est quand même le plus gros déficit de l'histoire, là, plus gros que ce que Justin Trudeau nous avait habitué. Donc, c'est pas rien. Là.
Oui. Les députés libéraux qui ont récemment participé à un symposium organisé par une association qui défend le modèle des chauffeurs au rabais, c'est là qu'on en parle et qu'on en reparlera plus tard, mais une victime d'une collision avec un pas lourd, c'est Claudia Boucher qui est sortie via la presse pour déplorer la situation. Elle regarde ça, puis elle regarde la photo, puis elle dit, il me semble que c'est bizarre que celui qui est président du comité permanent au transport de la Chambre des communes, Peter Shekiff, c'est dur à dire, là, qui était présent à l'événement du Canada Truck Operator Association samedi dernier. Elle se dit, voyons, ça avance vraiment dans le sens de la sécurité routière, mais qu'elle voit cet homme-là entouré de personnes qui mentionnent qu'on s'entoure d'experts pour faire avancer l'industrie du transport du Canada, mais aussi d'autres qui déplore que tout se passe bien, entre parenthèses, dans le domaine du transport. Il est où là, le problème? Où il est où ce qu'on voit pas? Elle a peur que ça soit pas entre les bonnes mains actuellement. Et je termine avec le dossier santé numérique. Là, ça continue de faire la manchette pour les mauvaises raisons. Cette fois-ci, c'est le docteur Daniel Vien. C'est un médecin spécialiste en diagnostic et entraînement des maladies complexes qui a dénoncé ce matin au Journal de Québec que le déploiement du DSN va entraîner des retards dans les traitements et suivis de cancer.
Exactement. Alors, ça va être à suivre de ce côté-là. On va souhaiter justement que les gens qui sont atteints d'un cancer soient suivis quand même assez rapidement. Ça me fait penser beaucoup à la COVID. Malheureusement, ça me retremble dans l'événement de Matchum 4 parce que c'est ça, Matchum 4. C'est trop de délai en raison de la COVID. PAC est arrivé trop tard pour les traitements. Donc, on va souhaiter que ça n'arrive pas dans la région de la Mauricie, dans la région de Montréal, pour ceux qui sont justement dans ce projet pilote du département de santé numérique. On va rejoindre à l'instant même Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va super bien, JF.
Cool. Gab, je te fais entendre Christine Fréchette à son annonce ce matin concernant les PME.
Une entreprise manufacturière, ça peut être de décider de garder ou d'acheter plutôt une machinerie cette année plutôt que de reporter l'achat à l'année prochaine. 5 000 $ par année, ça fait une différence. Seulement en 2026, on parle donc d'un montant de 30 millions de dollars. Qui sera accordé en baisse d'impôts aux PME. Et sur une période de 5 ans, ça représente donc 630 millions de dollars.
Bon, c'est pas la mer à boire, c'est 5 000 $ par entreprise, par PME. Mais Gab, faut commencer en quelque part, donc tu me verras pas chialer sur un allègement fiscal.
Bien, je pense que je vais te surprendre aujourd'hui, JF. Je suis globalement toujours d'accord là, avec la baisse d'impôts. Ici, je mets quand même un drapeau rouge. Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire que les entreprises, les PME, vont avoir un peu plus d'argent parce qu'ils vont moins payer d'impôts. Hein. On parle d'un allègement pour aller à 2,2 % d'imposition. Maintenant, il y a ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que ce que ça vient faire, ça vient créer une incitation à rester une PME. Hein, c'est comme si on vient freiner la progression.
Je comprends.
Et c'est la même chose quand on pense aux particuliers puis on dit attention à la trappe de la pauvreté parce qu'à partir d'un certain seuil, l'imposition augmente rapidement. Donc, les gens, un peu comme les PME vont faire, restent sur le seuil. Alors qu'on a une longue... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises PME sur le seuil puis ensuite de ça, ça va redescendre parce qu'on le sait que à partir du moment où vous dépassez ce fameux seuil-là, ben on passe de 2,2 % à 11,5 % d'imposition sur les sociétés seulement au provincial. Donc, on vient créer une forme d'incitation où on vient pas... s'expandre en tant que PME. Alors, je pense que la bonne approche de la ministre, puis c'est sûr que c'est cute dans l'espace public parler de nos PME, puis c'est, je veux dire, c'est très important pour l'économie québécoise, je le réitère, mais ça aurait été de réduire l'impôt sur les sociétés en général. Ça aurait coûté plus cher, il faut le dire, ou plutôt, il y aurait une baisse de revenus plus importante, parce que c'est pas un cadeau, là, je pense que c'est juste moins punir les entreprises, mais ça aurait été plus bénéfique pour les entreprises parce qu'on vient pas créer cette forme de trappe qui fait en sorte qu'on vient freiner l'expansion des PME.
Ouais, je comprends très bien ton point de vue. Dis-moi donc, c'est quoi le seuil de PME? C'est en raison du nombre d'employés? C'est établi à 50, c'est-tu bien ça?
Alors, pour les PME, ça dépend toujours des critères. Là, vous allez avoir le gouvernement fédéral où le seuil est à quelques centaines. Donc là, on est plus au niveau des moyennes entreprises. Au niveau des petites entreprises, on est plus aux alentours de 25-50. Maintenant, pour ce qui est de cette déduction fiscale, parce que c'est une déduction fiscale pour les petites entreprises avec un revenu quand même assez bas ou sinon pas si important que ça. Le problème, c'est qu'on vient entretenir là, la barrière. C'est-à-dire que comme on vient réduire l'imposition pour les PME, on passe de 3,2 à 2,2 et le seuil d'ensuite, c'est 11,5. Donc, on vient creuser l'écart et donc, c'est comme si là, vous devez sauter un mètre et demi puis là, on vous dit, ben c'est un peu stressé, mais là, il faut que j'en saute une et 75. Fait que c'est encore plus que ça. Ça se peut qu'on voit un effet qui est négatif. Puis ça, c'est important en économie de JF de toujours voir ce qu'on voit pas. Hein, ça peut paraître contre-intuitif.
C'est pour ça qu'on te parle, Gabriel.
Ben, Colin, je suis content d'être là.
Exactement. Donc, c'est vraiment là dans cette particularité-là. C'est quand même un premier pas dans une direction où, au lieu de faire du démarchage par nous-mêmes au niveau du gouvernement, donc de faire de l'interventionnisme, on laisse quand même place un peu plus à de la liberté au niveau des entreprises.
Oui, je pense que c'est pas mauvais. Là. C'est comme si je te disais, là, elle veut augmenter l'impôt sur les entreprises. On s'entend, c'est dans le bon sens, c'est pas optimal. Mais par contre, on parle souvent des PME, on le sait, il y a d'autres partis politiques qui nous parlent de réduire l'imposition sur les PME. Globalement, je serais pas contre ça, mais si on veut être optimal pour le développement économique, parce que JF, je le rappelle, là, c'est sorti ce matin ou hier soir, là, mais la croissance économique du dernier mois, c'est 0,0. C'est flat, flat, ouais. Flat. Là. Fait que si on veut s'assurer d'un dynamisme, J'invite la première ministre et son équipe à aller plus vers une réduction des taxes sur les entreprises, réduire le fameux seuil de 11,5%, puis ça peut se faire en réduisant les subventions aux entreprises de façon symétrique. Maintenant, on va voir si on a le courage politique de le faire.
Maintenant, Gabriel, on passe à la mise à jour économique hier au niveau du gouvernement fédéral. C'est un 38 secondes de François-Philippe Champagne en entrevue à Radio-Canada. Je veux te le faire entendre parce que pour moi, il y a un paquet de mensonges là-dedans, mais je veux m'en assurer avec toi que j'ai la bonne vision.
Ben, j'allais dire les dépenses, parce qu'il y a les revenus.
C'est
l'état et l'autre, c'est le fait qu'on s'est serré la ceinture.
Vous aviez ajouté quelque chose.
Le 60 milliards,
j'allais dire les dépenses.
Oups, ça a enregistré en double. Mes excuses, cher auditeur, cher auditrice. Je te le résume. François-Philippe Champagne dit deux choses. On a réussi à réduire le déficit en raison qu'on a été très bon pour gérer les dépenses et on a diminué les intérêts sur la dette. Pour moi, c'est deux mensonges.
En fait, c'est que ça se contredit. J'ai trouvé ça absolument lunaire quand j'ai écouté ça. On a le ministre des Finances qui nous dit « Regardez comment on fait de la bonne gestion. Regardez ça comment on est bon, nous autres. On a réduit les dépenses. » Puis là, l'exemple qu'il utilise, l'exemple, c'est l'intérêt sur la dette. C'est parce que dans le budget 2025 qui a été déposé en novembre 2025, on avait plus de 55 milliards d'intérêts sur la dette. Dans la mise à jour, on est à 54 milliards. S'il y a un poste de dépenses où la marge de manœuvre est la plus faible, où le gouvernement peut prendre le moins le crédit, c'est sur les taux d'intérêt. OK? Fait que le fait que François-Philippe Champagne dise ça, ça me fait un peu rire, parce que je me dis, ben voyons donc, je comprends que vous avez renouvelé de la dette, mais c'est pas vous qui décidez le taux d'intérêt. Fait que comment pouvez-vous expliquer que c'est de la bonne gestion de finances publiques quand c'est pas vous qui déterminez le taux d'intérêt?
En
parallèle à ça, on augmente également les dépenses. Il faut quand même le dire, la réduction du déficit, qui est une bonne chose en soi, puis Pascal l'a très bien dit d'entrée de jeu quand elle a dit que ça reste énorme. Ça reste énorme, et la hausse des revenus, c'est une forme de résilience par rapport aux tarifs douaniers. Donc, encore une fois, c'est pas de la bonne gestion des finances publiques. Pourtant, au gouvernement, on n'a pas froid aux yeux. Hein? On va toujours prendre le crédit, même si on a très peu à avoir en la matière.
Exactement. Donc, ça reste le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada et ça reste un transfert énorme sur notre dette. Gabriel, je me trompe pas en affirmant ça?
Non, c'est tout à fait vrai. Et ça, dans une perspective où le gouvernement nous explique que c'est de la saine gestion des finances publiques. On réduit les dépenses, on augmente des dépenses également pour le coût de la vie. Je dis, mais prenez votre bout, là. Est-ce que vous augmentez les dépenses, vous les réduisez? Est-ce que c'est à cause que vous faites de la bonne job ou c'est à cause des taux d'intérêt? J'ai l'impression qu'on a dit tout et n'importe quoi dans cette entrevue-là. C'est comme si tu me poses une question, Jeff, puis je te dis oui et non, mais ça, c'est censé. Hein? On est très bon là pour dire beaucoup de mots puis dire tout en même temps, mais la réalité, c'est qu'on a un déficit de 67 milliards. C'est très élevé. Quand on pense à l'ancien gouvernement de Justin Trudeau, on disait c'est très dépensier comme gouvernement. Aujourd'hui, on peut dire c'est très, très dépensier sous le gouvernement de Mark Carney. Et là, on nous explique d'autres artifices. J'ai envie de dire presque de la poudre aux yeux en nous disant, ben, on va faire d'autres choses, on va contribuer au développement économique. L'année dernière, on a passé une loi pour les projets majeurs, où c'est maintenant le gouvernement qui choisit les grands projets. Puis là, on dit, ben, attendez un peu, c'est encore mieux que ça. On va créer un fonds souverain, puis d'ailleurs qu'il n'y a rien d'un fonds souverain, puis on va non seulement choisir les bons projets, puis on va prendre l'argent des contribuables, puis on va financer ces projets-là.
Ouais.
Ben, est-ce qu'on peut être un peu moins centralisateur? Est-ce qu'on peut penser à ce point-là? Est-ce que le gouvernement pense vraiment que c'est lui qui va développer l'économie en choisissant le projet? Qui va aller de l'avant? Qui va avoir le financement? C'est parce que maintenant, on n'aura plus des entrepreneurs là, qui vont répondre à la réelle demande. On va avoir des entrepreneurs politiques qui vont aller manger avec la gang au Parlement et dire ah, « Moi, j'ai un bon projet. Là, je suis backé. » C'est pas ça qu'on veut au Canada.
Non, mais c'est pas déjà un peu le cas des fois, genre, mettons, lobbyisme et tout ça.
Effectivement, qu'il y a du lobbyisme, puis c'est très, très clair. Mais là, quand c'est rendu que On a un gouvernement qui a mis de l'avant une évaluation d'impact particulière pour des projets qu'il décide avec un fonds souverain qui pourra appuyer financièrement. Fait que tu choisis quel projet va de l'avant, ben, essentiellement parce que ça n'arrive pas actuellement avec l'évaluation d'impact, puis tu choisis qui aura le financement public. Ça commence à être grave, puis ça, je pense qu'on le sait. Hein. Pensons notamment à certains exemples des dernières années. Là, j'ai un nom, Nordvolt. Je pense que ça dit quelque chose aux gens qui nous écoutent.
Oui.
On avait décidé que pas besoin de BAP pour Nordvolt. OK, parfait. Puis on a décidé aussi d'envoyer des centaines de millions de dollars, puis on le voit aussi. T'sais. Le gouvernement n'a pas la capacité de prévoir qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Mais il y a la capacité de nous faire croire qu'il y a la capacité. En réalité, c'est pas le cas.
Et c'est exactement ce qu'on a fait du côté du Parti libéral du Canada. Gabriel Giguère, toujours un plaisir de te parler. Tu nous remets les idées claires en matière d'économie. Je te souhaite un bon restant de semaine et on se reparle la semaine prochaine.
On s'en parle bientôt. Au revoir.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Un gars qu'on adore parler. Il est justement capable de nous vulgariser l'actualité économique de façon impeccable.
On en sent de un.
Pascal, on vient de parler d'interventionnistes du gouvernement qui sélectionne c'est qui les bons puis les méchants en économie. Mais là, on se pose une méchante question concernant les chauffeurs à rabais parce que il y a quand même des hauts placés du gouvernement qui ont été vus avec des organisations qui promouvoient ce phénomène du chauffeur à rabais qui cause des dommages irréparables sur nos routes.
Puis on suit le dossier depuis toujours. Nous autres, on trouve ça un peu ahurissant de voir qu'il y avait encore de ces chauffeurs qui ont créé des accidents pour certains mortels qui étaient sur nos routes. Encore aujourd'hui, la crainte commence à monter aussi. On se rend compte qu'il y a du magouillage dans une coupe des rayons, tiens, de tous ces chauffeurs Inc.-là. Ça a commencé avec les permis qui ont été donnés à la va-vite dans une boîte de Cracker Jack, après aux inspections des camions qui n'étaient pas faites. Et depuis toujours, ces victimes-là, entre autres ceux qui ont survécu ou encore les victimes des proches qui sont décédés, essaient de faire passer leur message. On est allé jusqu'à Ottawa récemment. On a eu des prises de parole extrêmement poignantes. Puis aujourd'hui, Claudia Boucher, avec qui on parle régulièrement, a livré un genre de témoignage dans la presse. Donc, ça s'intitule « Chauffeur Inc. La participation d'élus libéraux à un symposium suscite un malaise ». Bon, je vous explique, il y a des députés libéraux, dont le ministre Mark Miller, le président du comité permanent des transports de la Chambre des communes, Peter Schiff, qui ont récemment participé à un symposium. Ça, c'est organisé par une association qui défend le modèle des chauffeurs au rabais. C'est là qu'on se dit, attends un peu, là, ils sont supposés vouloir gérer le projet. Là, ils sont à cet endroit-là. On ne peut pas faire de corrélation directe puis une opinion directe là-dedans, mais on peut quand même se dire, ben voyons, est-ce que c'est quelque chose qui est normal? C'est donc Claudia qui a pris la parole et qui a dit, crime, moi, je me demande toujours pourquoi ça ne va pas plus vite dans le dossier. C'est une des raisons, mais il faut savoir que c'est cette femme-là qui a été prise entre un camion poids lourd et un autobus scolaire complètement écrapoutillé, tiens, disons-le comme ça, là, dans sa voiture.
Chanceuse d'être en vie.
Exactement, elle a survécu à tout ça. Puis elle veut que ça s'arrête pour les gens qui sont encore sur la route. Et là, elle se pose beaucoup de questions.
On a justement au bout du fil Claudia Boucher, cette citoyenne qui a été victime d'un chauffeur à rabais. Claudia, comment vas-tu?
Salut, ça va super bien, merci.
Claudia, merci beaucoup de nous accorder ton temps ce midi, ton temps très précieux, on l'apprécie grandement. Quand tu vois ce que tu as vu, Claudia, c'est-à-dire que Peter Schiffke et également Mark Miller se retrouvent justement dans un événement d'une organisation qui est en faveur des chauffeurs à rabais, tu dois pas croire à ça, ça doit te donner froid dans le dos.
Ah oui, vraiment, là, je trouve ça très suspicieux et je me suis permis de commenter justement sur son réseau social là, à M. Peter Schiffke, que j'ai posé quelques questions en fait, puis j'ai ramené la question vraiment dirigée vers le phénomène des chauffeurs à rabais. Dans le fond, fait qu'on dit qu'on traite avec des experts ou on agrémente le fléau au détriment de la sécurité des usagers de la route, parce que pourquoi, selon moi, il y a un conflit d'intérêts. Tu présides le comité auquel j'ai participé pour faire mon témoignage en tant que victime, avec à mes côtés Mme Séguin, Mme Poulain, M. Steve Bourgeois et autres là, qui étaient présents là, durant cette conférence au comité permanent des transports, infrastructures et des collectivités à Ottawa le 26 janvier à la Chambre des communes. Et puis là, moi, je le vois le parader littéralement sur son réseau social que il a à ses côtés des personnes là qui encouragent finalement là le modèle des chauffeurs à rabais. Donc pour moi, c'est vraiment c'est une aberration là. J'étais sidérée de voir ça.
Et on sait que hier du côté de la Chambre des communes, il y a entre autres quelqu'un qui vous a entendu beaucoup et qui est Xavier Barsalou Duval du Bloc québécois qui a interpellé Peter Schiffke et dit hey, on vient juste d'entendre les victimes en témoignage en comité, on a entendu toute l'industrie du camionnage dénoncer ces dangers publics là. Puis le président du comité se pointe à leur événement. Est-ce qu'on doit comprendre quelque chose? Pourquoi pourquoi est-ce que le président et les libéraux font la promotion des chauffeurs au rabais, finalement, au lieu de les interdire? C'est sûr que là, on est dans l'opposition, on veut pointer fort, puis on veut parler fort. Mais est-ce que tu as eu d'autres communications de d'autres personnes qui se sont dit « Hey, j'ai le même malaise, ça fait pas de sens », puis que c'était pas nécessairement politique?
Ben oui, c'est sûr là que moi je reste en communication avec plusieurs personnes là qui sont impliquées autant que moi. Xavier Barcelos-Duval, il a tenu une conférence là le 17 avril dernier là qui s'appelait chauffeurs rabais péril sur nos routes. Il y a plusieurs acteurs de l'industrie du transport qui se sont présentés, dont Steve Bourgeois. Il y avait Rebel News qui était là évidemment pour faire la lumière là-dessus. Mais là, on sait qu'il y a du lobby, puis on sait un peu à qui ça profite. On sait qu'il y a de l'argent en jeu. Mais là, tu sais, au début, on se posait beaucoup de questions. Mais là, clairement, il y a un comité qui s'est fait. Et puis là, Xavier, je pense qu'il y a plusieurs cartes là à qu'il va pouvoir déposer prochainement, dont le rapport du comité. Il disait que ça allait donner des orientations pour que le gouvernement, dans le fond, ils doivent agir en ligne avec qu'est-ce qui s'est discuté là à l'intérieur des murs là de la Chambre des communes. Mais l'objectif, c'est de continuer la pression médiatique parce que on a des statistiques. T'sais, on a des statistiques, des données d'accidents, entre autres de l'Association professionnelle des remorqueurs du Québec, dans le fond APDQ, qui ont eux autres recensé les accidents de poids lourds qui incluent d'autres nationalités comme chauffeurs ou des illégaux, donc des gens qui n'ont pas d'assurance, pas de permis, comme on a discuté déjà, et ils sont responsables de 78% des accidents. Aïe, et Ottawa aïe, aïe. Le sait donc. Qu'est-ce qui va en venir après qu'on ait fait la lumière là-dessus? Parce que là, quand on voit M. Chkiewski qui se présente avec à ses côtés le président, entre autres, de la compagnie Safex. Safex, c'est la compagnie de camions qui est impliquée dans mon accident personnel à moi. Fait que c'est sûr que je peux pas faire autre chose que réagir à ça. Là.
Claudia, tu l'as dit, 78% des accidents, c'est tellement une statistique parlante. Merci de nous la rapporter. Est-ce qu'il y a des leviers que tu peux avoir aussi au niveau du palier provincial? Tu sais, je pense à la CAQ là, qui remet tranquillement les contrôleurs routiers sur le réseau ou à d'autres partis politiques qui visent de prendre le pouvoir comme le PQ ou le PLQ?
Bien, tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a Xavier Barcelos-Duval qui s'est beaucoup impliqué. Je sais qu'il est dans l'opposition. Moi, tu sais, j'ai contacté des députés de mon secteur parce que je me suis dit pourquoi qu'un député d'un secteur qui est super éloigné du mien, tu sais, moi je suis dans le secteur de Québec, qui me contacte et qui s'intéresse à ce que je vis. Donc je me suis intéressée à contacter justement député caquiste ici à Québec et j'avais fait ça avant les fêtes, là on avait Geneviève Guilbeault, c'est sûr, j'ai eu
donc,
aucune
donc au provincial. Puis là tu as essayé au provincial puis il n'y a pas eu de réponse, c'est ça qu'on comprend?
Non, c'est ça. Fait que là, on voit que Xavier est un peu seul à creuser le dossier, puis lui, il en ressort des recherches. Il fait des recherches, puis il sort des statistiques qui sont quand même intéressantes, là, dont, tu sais, concernant les compagnies de nous, là, les victimes des accidents. Donc, il y avait la compagnie HGC, il y avait la compagnie Groupe Verville, qui a beaucoup d'infractions qui sont en enquête au niveau de la CNESST. Après ça, on avait recensé le site web, là, de Safex qui disait mentionner 150 camions, 200 remorques, mais qu'au registre des entreprises du Québec, il y a 26 à 49 employés. Puis sur le site SaferWebUS.com, dans le fond, c'est ce qui recense les camionneurs, les flottes de camions aux États-Unis. Bien là, on voit un chiffre qui est 216 camions, 225 chauffeurs. Donc là, on sait qu'il y a un ratio probablement de 75% de travailleurs autonomes, pour ne pas dire chauffeurs à rabais, qui est à l'intérieur de cette compagnie-là. Ouais. Puis, on la voit dans le CTOA avec des députés qui siègent, en fait, au Parlement. Là.
Les conservateurs, pas personne qui a levé la main, qui est venu vous parler ou qui a envie d'embrasser la cause avec M. Barcelos-Duval?
Personnellement, moi, de ce que j'en sais, non.
Donc, pas de conservateurs, pas personne au pouvoir au Québec. T'es laissé seul avec le Bloc québécois. En terminant, Claudia, sais-tu si vous pourriez faire un recours collectif contre justement ces entreprises-là?
C'est une bonne question. C'est sûr que là, moi, quand j'ai une nouvelle comme ça, je peux pas rester indifférente. Après ça, c'est de quelle façon il faut s'y prendre. C'est sûr qu'on a des discussions à avoir, mais c'est sûr que les chauffeurs à camion disent, bon, l'administration Trump a fait un méchant ménage aux États-Unis. Là, nous, on en a peut-être les répercussions. Est-ce qu'on a plus de ces chauffeurs-là concentrés au Canada nécessairement? On sait qu'on est infesté du côté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. Puis là, ici, on le voit parce qu'on en a les contre-coups, puis on dénonce beaucoup aussi l'épicentre du problème, comme j'ai souvent mentionné, là, qui était beaucoup orienté vers Brampton, Ontario. On sait que là-bas, ils enterrent ça là, dans les médias. En Ontario, là, ça sort 0-0-0. Puis j'ai justement parlé avec une des femmes là, qui était à mes côtés quand j'avais été à la conférence de presse le 24 novembre 2025 au Parlement, qui faisait partie du CCRSA, là, le Caledon Community Safety Road and Advocacy Group. Donc, j'avais Carmilla Palkowski qui me confirme que Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, oui, qui a même fait congédier un journaliste qui dénonçait la corruption le concernant. Là. Fait que ça, c'est un fait qu'on m'a remis ce matin.
C'est clair que c'est un dossier à suivre. Puis ce qu'on te promet, moi et Pascal, c'est vu. Je suis sûr que Pascal va être d'accord. Là. Je m'engage pour toi, Pascal. Tu me le diras si t'es pas d'accord. Mais on va faire une demande d'entrevue avec Benoît Charrette, le nouveau ministre des Transports au Québec.
Excellente idée.
On va y mettre un petit peu de pression pour que ça bouge avec les chauffeurs.
C'est
abeilles
dur
ici au
à
Québec.
Comprendre pourquoi est-ce que ça bouge pas plus.
Ouais,
que ça.
Exactement. Donc on va faire ça pour toi, Claudia. On va te tenir au courant. Est-ce que ça a de l'allure?
Ça a de l'allure. Je vous remercie de votre implication et de toujours souligner la problématique. Là, on veut que la sécurité routière ne soit pas mise de côté pour 2026, c'est certain.
Et toi, merci tellement pour ta disponibilité. Merci, Claudia Boucher, puis bon courage dans ce combat contre les chauffeurs à rabais.
Je vous remercie beaucoup.
Merci. Salut, Claudia Boucher, victime d'un chauffeur à rabais. Ouf, en tout cas, il y a du lobbyisme qui se fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Je ne veux pas utiliser encore le mot corruption, mais
il
y a du lobbyisme très fort.
Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est normal de ne pas comprendre.
Oui.
J'aimerais ça savoir, la part des chauffeurs, il y en a plein qui nous écoutent. 88-971-101. Pouvez-vous prendre deux minutes, là, si jamais vous êtes sur votre pause dîner avec nous à midi 28, pour nous dire, est-ce que vous avez le droit d'en parler? Est-ce que vous en parlez avec vos collègues? Y a-t-il un genre de « on n'a pas le droit » ou « faites-vous menacer? » Comment ça se passe dans le réseau? Parce que là, on s'en va avec des victimes. Des fois, on parle à du politique. Mais sur le terrain, vous avez sûrement des infos supplémentaires pour nous faire comprendre qu'est-ce qui débloque pas.
Tellement, parce que jusqu'à présent, là, les auditeurs réagissent au 418-971-101. Puis on a de « ouais, quand ça sent la crosse, les libéraux sont jamais pas loin. Ouais, » En effet, malheureusement, ça c'est dans l'ADN libéral jusqu'à présent. On parle du no-fault au Québec. Donc, allez-y, écrivez-nous, parlez-nous, les chauffeurs. On va vous écouter et vous lire en ondes avec un grand plaisir. Pascal, pas plus tard qu'hier, avec les boissons énergisantes, on parlait de l'activité physique chez les jeunes et de l'importance d'investir dans le sport. Puis, il y a un athlète olympique qui a gagné une médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques aux 500 mètres en patinage longue vitesse. Laurent Dubreuil, avec qui on avait parlé après les Jeux olympiques. Pas assez d'argent pour retourner voir sa famille puis aller au championnat du monde par la suite. Il avait fallu qu'il parte des Olympiques pour aller au championnat du monde puis rester 3 semaines chez des amis qui l'hébergeaient gratuitement. Ben, il faut croire qu'il a été entendu parce que le gouvernement fédéral a décidé d'investir 750 millions de dollars hier dans le sport amateur. On va parler avec Laurent Dubreuil au retour de la pause. Il va être disponible pour nous entre deux conférences. C'est un homme inspirant. Il fait des conférences dans les écoles aujourd'hui. Donc, entre deux conférences, sa route, il a dit « Jeff Fortin, appelle-moi, on va jaser de ça. » C'est avec lui qu'on parle immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102 à l'émission d'En Jase. 102.1 Midi 35 minutes à la météo. 19 degrés. Aujourd'hui, alternance de soleil et nuages. On en profite parce que demain, c'est 9 degrés, pluie parfois forte. 10 à 20 mm de pluie. 6 degrés de la pluie pour vendredi. Mais inquiétez-vous pas pour le week-end, on revient en alternance soleil et nuages, 10 et 11 degrés. Pour ceux qui font de la course à pied, qui vont faire le demi-marathon de Lévis comme moi, ben là, dimanche, on est passé de peut-être de la neige à 11 degrés.
Ça, c'est bon. Un bon changement de cap. Et j'ai l'impression que c'est la moitié de la ville qui fait le demi-marathon.
Ah, c'est l'enfer. Encore 5000 inscriptions. Tout est complet.
C'est
populaire. Merci, bonsoir. C'est fou. Franchement, bravo Québec. Vous êtes en forme. Vous êtes beau à voir. On est très heureux. Hey, parlant d'en forme puis beau à voir, Laurent Dubreuil, toi, 33 ans, si je me trompe pas, médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques, continue dans sa profession, maintenant devenu ambassadeur pour l'investissement du sport au Canada avec ses excellentes chroniques durant les Jeux olympiques. Puis on l'a au bout du fil, Laurent Dubreuil, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Laurent, tu dois être un de ceux qui est très satisfait de voir enfin le gouvernement fédéral investir dans le sport avec 755 millions de dollars.
Oui, c'est une belle victoire pour tous les athlètes, des jeunes joueurs de hockey, de baseball de 5 ans partout au Canada jusqu'aux équipes nationales de tous les sports. Il y a du financement pour développer le sport partout au pays, à tous les niveaux. C'est une belle victoire.
Oui, exactement. Ça va, ça, Laurent, ça sera pas juste pour l'élite. Évidemment, on va investir dans les infrastructures, dans les communautés. Donc, ça va permettre à n'importe quel jeune de faire du sport. Et ça, c'est tellement important maintenant avec l'attraction des écrans, du vapotage et ainsi de suite.
Ben exact. Dans le 755 millions, il y en a seulement 45, en fait, pour les athlètes de haut niveau. 50 pour la tenue d'événements d'envergure mondiale, puis 660 sur 5 ans pour le développement du sport pour les jeunes. Fait que les infrastructures, l'accès au sport, permettre aux familles d'inscrire leurs enfants dans le sport que les enfants ont choisi. C'est vraiment de toute beauté. C'est ça que je défendais. Oui, je défendais un peu mon petit milieu du sport de haut niveau, mais pas au détriment du sport pour les jeunes. Si on veut une population en santé, des jeunes qui se développent, des jeunes qui performent à l'école, il faut que le sport fasse partie de leur vie, les études le prouvent.
Comment t'expliquais ce désintéressement financier-là pour le sport et les jeunes?
C'est une bonne question. Je pense qu'on est habitué hein, comme société à toujours vouloir guérir plutôt que prévenir. Puis il y a du monde malade, on investit dans le système de santé, puis je dis pas que c'est une mauvaise idée, notre système de santé, il y en a besoin, mais je pense qu'on est tellement à patcher le trou puis à mettre un pansement sur le bobo qu'on oublie que la prévention peut nous empêcher d'avoir le bobo. Puis on s'en est souvenu enfin, c'est super parce qu'il y a une population, des jeunes qui font du sport, ils vont en faire. Il y en a qui vont arrêter de faire du sport, mais il y en a qui vont en faire plus tard. Moi, j'ai plusieurs de mes amis avec qui jouent au soccer quand j'étais jeune, qui jouent dans des ligues d'adultes. Puis, ils sont peut-être pas les plus en forme sur la planète, mais c'est mieux. Ils jouent deux fois semaine, c'est mieux que zéro. Ils sont plus en forme parce qu'ils jouent encore au soccer, puis ils jouent au soccer là parce qu'ils jouaient quand ils étaient jeunes. Fait que ça va donner des adultes plus en forme, des adultes qui vont être plus en santé. Donc, ça va être bon à très, très, très long terme.
Et qui vont avoir une soupape aussi quand la pression mentale est trop forte. Là. Tu sais, ça, c'est à ne pas sous-estimer. Ils vont avoir une idée de comment évacuer ça, même si c'est inconscient.
Exactement. Le sport a des bénéfices sur la santé physique, mais sur la santé mentale également. Pour les jeunes et les moins jeunes, c'est un échappatoire. Quand ça va pas bien à l'école, mais t'es parti de sport après, ben ça t'enlève de la pression de tes examens. C'est la même chose pour les adultes. Puis souvent, les adultes ont tendance à l'oublier qu'ils ont encore le droit de s'inscrire dans le sport. Nous autres, au centre de glace, où je m'entraîne, il y a 4 glaces de hockey ou de patin de vitesse. Puis il y a des ligues, des tournois d'adultes à l'année longue. Puis les gens, ils ont l'air d'avoir du fun. Là. C'est comme s'ils redeviennent un enfant le temps de la partie. C'est super beau de pouvoir du sport.
Ah oui, vraiment. Moi, j'ai joué au deck hockey longtemps avec ma gang de chums d'enfance. Puis je vais te dire une affaire. On retombait à 18 ans, même si on en avait 40, là, avec le plaisir qu'on avait. On parle avec Laurent Dubreuil, médaillé de bronze aux 500 mètres des derniers Jeux olympiques. Il est devenu un ambassadeur pour l'investissement des gouvernements dans les sports. Laurent, j'entendais Pierre Lavoie hier dans différents médias. Lui qui s'investit énormément pour faire bouger les jeunes dans les écoles, dire on est rendu, selon moi, des états généraux pour les jeunes avec la consommation en hausse de boissons énergisantes, de vapoteuses, avec le temps d'écran qui augmente. Es-tu d'accord avec lui?
Bien, c'est sûr que c'est... Quand moi, j'étais jeune, on s'ennuyait, c'était ben, « va jouer dehors », mais maintenant, tu t'ennuies, t'as tellement de gadgets dans la maison, les enfants ont des cellulaires tellement... Moi, j'ai eu mon premier téléphone à 18 ans. Là. Les gens, ils ont leur téléphone au primaire maintenant. Ils ont tellement de trucs à faire autre que du sport qu'il faut rendre le sport plus accessible, plus attrayant, parce que c'est bien trop facile de dire c'est pas grave, je vais aller jouer à Fortnite ou aux jeux vidéo. Nous autres, les jeux vidéo, c'était quand même très basique quand j'étais jeune. On aimait ça quand même, mais ça remplaçait pas le sport. Fait que oui, c'est important, c'est un défi, puis ça va juste aller en empirant, là, parce que si on pense que c'est addictif en ce moment, les médias sociaux, ça risque d'être encore pire dans 5 ans. Ça va pas dans le bon sens à ce niveau-là.
Est-ce que, selon toi, on fait assez de sport à l'école? Parce que moi, je regarde ça, j'ai deux garçons, ils sont rendus à 18 et 16 ans, puis ouf, quand ils ont une journée de 4 cours magistrales, là, oublie ça, c'est impossible qu'ils gardent la concentration.
Non, moi, je pense pas qu'on fait assez de sport à l'école, en effet. Moi, je pense qu'il devrait avoir du sport, une période de sport dédiée à chaque jour pour les enfants, les ados. Un peu comme le modèle sport-études, mais le modèle sport-études est très spécifique à un sport. C'est sport-études hockey, tu vas tout le temps pratiquer le hockey. Moi, je serais pour quelque chose de plus multisport, pour que les jeunes bougent, qu'ils essaient des activités, juste qu'ils développent comme humains physiquement également. Pour moi, c'est incontournable, c'est nécessaire. Puis je comprends encore une fois, comme on dit, ben on voit les scores des élèves qui sont pas nécessairement à la hausse, puis on se dit, ah là, il faut donner plus de cours de maths, mais plus de cours de maths, si l'élève il est pas concentré parce qu'il a trop d'énergie, puis il a pas fait de sport, c'est pas mieux. Peut-être que ce serait mieux d'avoir plus de sport puis moins de maths, mais il serait plus concentré en mathématiques. Je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, c'est pas mon champ d'expertise, mais moi, je le sais que quand j'avais fait du sport à la pause ou bien sur l'heure du midi, ben j'avais pas envie de grouiller, j'étais capable, des fois j'étais fatigué, mais j'étais plus capable de me concentrer que si j'avais l'impression d'avoir un surplus d'énergie, puis là je tenais pas sur ma chaise.
Ouais, c'est complexe quand même là, l'horaire, puis essayer de faire des découpes puis donner ça à certaines disciplines à l'école, c'est loin d'être facile. Comment est-ce qu'on fait pour pas démotiver le jeune aussi qui aime pas le sport, même si on ajoute une période, tu sais, tu parlais de multisport et tout ça, mais il y a pas quelque chose aussi dans notre éducation qui fait en sorte que le sport c'est comme une corvée pour certaines personnes?
Je pense que ça le devient quand on vieillit. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui... Ma fille, ben, c'est un exemple de un, mais ma fille est très créative et pas particulièrement sportive, puis je pense que le cours qu'elle aime le plus, c'est l'éducation physique. C'est les enfants aiment ça bouger. On les envoie dans un parc, puis ils grimpent à travers les modules, ils se pendent ses barreaux. Ça veut bouger, un enfant. Puis à un moment donné, on le perd. Quand je pense qu'on perd surtout les jeunes quand le sport devient compétitif, puis là ben le jeune qui est moins habile en sport peut-être qu'il se décourage parce qu'il est moins bon que les autres, il est pas capable de faire un tir au basketball, mais c'est pour ça que je parle de multisport, parce que c'est pas parce que t'es pas bon dans un sport que tu vas être mauvais dans tout. Moi je suis affreusement mauvais en piscine, je suis très bon sur quand l'eau est glacée, mais pas quand l'eau est liquide. Fait que c'est faut trouver un peu son créneau, puis faut trouver ses intérêts. Puis en essayant plein de sports, t'as bien plus de chances d'en trouver un que t'aimes. Puis après ça, tu t'inscris à celui-là, puis t'en feras après l'école. Mais pour moi, c'est juste de bouger en général. C'est sûr que si on impose la course à pied à tout le monde, mais il y en a qui aiment ça, mais il y en a plein qui détestent, fait que ça marchera pas. Mais de faire bouger en général, c'est rare qu'on dise aux enfants de 6-7 ans, hey, on va-tu au parc, puis ça me tente pas. La plupart du temps, c'est yes, on y va, puis on trouvera ce qu'on fait rendu là-bas.
Non, en effet, tu marques un bon point. Laurent, en terminant, petite question personnelle. Tu as 33 ans, tu viens de gagner une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Est-ce que tu y vas pour une préparation pour d'autres Jeux olympiques qui t'amènera à 37 ans?
Ça serait mon rêve. C'est sûr que... J'ai 33 ans, je suis déjà le plus vieux. Aux Olympiques, j'étais le plus vieux sur la ligne aux 500 mètres. Fait qu'à 37 ans, c'est peut-être irréaliste, mais j'aimerais ça. Fait qu'on va voir, on va y aller une année à la fois. On va voir si le corps tient, si les résultats sont encore là, si ça va bien concilier ça avec ma famille, mes deux enfants. Mais si tout est réuni, j'aimerais ça me faire un dernier cycle olympique, oui.
Laurent Dubreuil continue à être un excellent ambassadeur pour le sport ici, à Québec, au Québec. Et on se reparle prochainement, sans l'ombre d'un doute.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Salut, Laurent Dubreuil, médaillé de bronze aux Jeux olympiques en patinage de vitesse longue piste dans la distance du 500 mètres. Lui, il ne savait pas, mais en acceptant pendant les Jeux olympiques d'écrire des chroniques dans le Journal de Québec, il vient de faire bouger le gouvernement pour 750 millions. Après ça, il avait fait une tournée médiatique qui était passée chez nous, notamment, là, ce que je disais, parce qu'il disait « j'ai pas d'argent, moi, pour retourner à Québec voir ma famille après les Jeux olympiques, puis retourner au championnat du monde de mémoire, c'est en Pologne. Fait que j'ai des amis que j'ai en Pologne qui vont m'héberger gratuitement, puis je vais rester là pendant 3 semaines. » Et là, c'est là qu'il avait fait une tournée médiatique, et ça eu comme effet que ça l'a sensibilisé énormément les gouvernements. Bravo! Très beau travail de Laurent Dubreuil!
Jusqu'à 14h!
Ah, Pascal, j'aime ça parler avec des personnes inspirantes comme Laurent Dubreuil.
En plus, quand elles ne le savent pas.
C'est ça.
Ça ajoute tellement, mais l'enjeu de faire en sorte que le sport soit pas une corvée, là, je trouve que c'est un point important pour les
oui,
jeunes.
Oui, vraiment.
Puis lui, il dit, ben, au moment que ça devient compétitif, c'est peut-être là où ça peut switcher, mm-hmm. puis qu'il faut faire attention. Parce que surtout que tu as du plaisir, là, tu t'en rends pas compte, puis tu continues, puis tu bouges.
Du tout. On a la journaliste du Soleil, Victoria Barry, qui est avec nous pour nous parler là, justement de cette enquête publique du coroner Luc Malouin concernant la disparition et la mort tragique de Maëline Lugaise. Mais avant ça, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, dans les dernières minutes, ce qu'on apprenait, c'est que Québec veut sa part des millions de dollars qui ont été annoncés par Ottawa. On tire la couverte un peu vers nous pour essayer de former des travailleurs dans le milieu de la construction. On sait que c'est pas facile. On est loin des passes d'armes du passé. On veut une collaboration avec le gouvernement Carney là-dedans. Puis on veut surtout notre part, comme je vous disais. Donc, le gouvernement fédéral qui a prévu investir 6 milliards de dollars sur 5 ans, ça, c'est pour le pays au complet. Parce qu'on veut attirer 80 000 à 100 000 jeunes dans les métiers spécialisés de la construction. Bon, au Québec, ça pourrait être 200 millions de dollars que ça représente là, pour cette année. Mais le gouvernement Fréchette n'a pas réclamé un transfert sans condition. C'est souvent ça, là, dans le cas des chicanes de compétences entre Québec et Ottawa. Puis pour le ministre Jean Boulay, ben, il prône la discussion. Donc, il dit que c'est important de continuer de parler avec Ottawa. On veut s'assurer de bien comprendre les intentions. Cet argent-là va bénéficier à qui? Les partenaires, ce sera qui? Dans quelles conditions? En fonction des intérêts, des ambitions. T'sais, on veut vraiment que ce soit aux couleurs du Québec, en fait. Puis c'est ce qui est un petit peu demandé là, au niveau de la province. Sinon, ce qu'on apprenait aussi de la part de la CAQ aujourd'hui, c'est que la première ministre Christine Fréchette a annoncé une baisse d'impôts. C'est 75 000 petites entreprises qui vont en profiter. Donc, c'est ce qu'a appris la presse. On note que la mesure n'était pas inscrite dans le dernier budget provincial qui était déposé en mars. Puis aussi, ce n'était pas parmi les promesses faites par Mme Fréchette lors de la course à la chefferie. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu surpris. Allègement fiscal qui va permettre environ d'économiser 5 000 $ par année à ces petites entreprises-là. C'est pas tout le monde qui est comme « yes » parce qu'on voit en arrière ce que ça implique aussi. Toujours selon la presse, le coût de la baisse d'impôts sera annoncé. Là. C'est évalué à 30 millions de $ par année en cours, puis ça devrait atteindre 230 millions de $ en 2030-2031. Si vous voulez reprendre la chronique de Gabriel...
Oui, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Ça sera sur le blvd.fm après l'émission.
On a aussi parlé avec lui de tout ce qui est finances au niveau fédéral. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, qui présentait hier sa mise à jour économique. Ça, c'est pour le gouvernement de Mark Carney. En gros, c'est un déficit qui sera un petit peu moins gros que celui prévu, mais il est tout de même immense. Alors, il va s'établir à 66 milliards de dollars au lieu de 78 000 milliards de dollars. On essaie d'avoir un équilibre entre les dépenses de fonctionnement puis les revenus qui doivent toujours être atteints pour 2028-2029. Donc, là-dedans, c'est des enveloppes qu'on apprenait comme entre autres renforcer le système sportif dont on vient de parler pour 755 millions de dollars. On a parlé avec Claudia Boucher pour les chauffeurs incorporés aussi. Vous pouvez reprendre l'entrevue après l'émission. Mais en gros, ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, pourquoi? Parce que ceux qui s'occupent au fédéral de faire avancer cette cause-là, des chauffeurs à rabais, puis essayer de trouver, bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis sont où les stratagèmes négatifs, mais sont aussi pris en photo dans des symposiums avec les gens qui ne semblent pas respecter les règles du camionnage. Donc là, on essaie de faire un peu la part dans tout ça. Et le dossier santé numérique est revenu dans l'actualité, puis je pense que ça prend pas assez de place aujourd'hui. Mais le docteur Daniel Vien, c'est un médecin spécialiste en diagnostic qui est dans le traitement des maladies complexes, qui a dénoncé dans le Journal de Québec que le déploiement va entraîner des retards dans les traitements et les suivis de cancer, chose qu'on demande du côté de Santé Québec. On pense qu'il n'y aura aucun retard de prix. C'est un projet pilote qui va être instauré tranquillement, pas vite, mais il y en a sur le plancher qui s'inquiètent encore. Le déploiement est toujours prévu pour le 9 mai prochain. En terminant, au responsable du Pentagone qui vient d'évaluer le coût de l'opération militaire américaine en Iran à 25 milliards de dollars américains. C'est la première estimation qui a été fournie publiquement. Puis ça veut dire quoi, Jeff? Ça veut dire qu'on est dans les 400 millions de dollars par jour.
400 millions de dollars par jour.
Par jour.
Et Donald Trump s'est fait élire en promettant de ne pas s'occuper de guerre qui n'était pas la sienne, donc en promettant de ne pas investir dans la guerre en Ukraine. Je dis ça, puis je dis rien. Au sport, Bruins de Boston et Oilers d'Edmonton ont sauvé leur peau hier. Les Bruins, victoire de 2-1 en prolongation sur un superbe but de David Pastrnak. C'est maintenant 3-2 dans la série pour les Sabres. Les Oilers d'Edmonton l'ont emporté facilement 4-1 sur les Ducks d'Anaheim grâce à deux buts de Leon Draisaitl. C'est 3-2 Ducks dans cette série. Le Wild du Minnesota a pris les devants 3-2 dans cette série contre les Stars de Dallas, notamment grâce à une belle performance de Kirill Kaprizov de 3 points, un but, 2 passes. Évidemment, ce soir, le Canadien de Montréal sera en action 19h contre le Lightning de Tampa Bay, 5e match de la série. On va en parler en fin d'émission avec Alex Laramée. Au basketball, les Raptors vont être en action également 19h30 ce soir pour leur 5e match contre les Cavaliers de Cleveland. C'est 2-2 dans la série. Et les Jays de Toronto, le jeune lanceur de 22 ans, Trey Savage, était de retour hier de sa blessure. Premier départ de la saison. Aucun point accordé en tout près de 6 manches de travail. Victoire des Jays 3-0. Pascal, évidemment, on a parlé d'une bonne nouvelle là avec des investissements en sport, mais il y en a une moins bonne à l'heure actuelle dans la région de la Capitale-Nationale, et c'est cette enquête publique du coroner Luc Malouin concernant la disparition et le décès de Maïlyn Lugaï. Ça s'était passé le 6 novembre 2024. Elle est décédée à l'âge de 13 ans. Et pour en parler avec nous, on a la journaliste Victoria Barry qui couvre le tout sur le terrain à l'heure actuelle. Elle est journaliste pour le journal Le Soleil. Victoria, comment vas-tu?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Victoria, je disais qu'hier, la police, le SPVL, la police de Lévis, en a pris pour son rhume avec le coroner Malouin, qui s'est même permis une envolée éditoriale. Et là, ce matin, on a questionné avec beaucoup de véhémence le fait qu'on avait arrêté les recherches à un certain moment donné. Je ne me rappelais pas de ça.
Oui, exactement. Bien, en fait, Maïlyn a été portée disparue vers 13h42 le 6 novembre. Et puis, les recherches terrain ont tout de suite été enclenchées là, pendant de longues heures. Mais vers 21h30, il n'y avait toujours pas de nouveau développement. On avait fait le périmètre de 300 mètres qui est standard là, dans des disparitions comme ça. Puis, il y a eu des discussions. C'est toujours pas super clair qui a pris la décision finale, mais le poste de commandement a été levé vers 21h30, puis les recherches terrain ont cessé pour la nuit, ont repris le lendemain matin.
OK, donc il y a eu cette période de tampon-là. Et là, hier, on a critiqué aussi le fait que on a fait des recherches dans le quartier résidentiel, mais on s'est jamais intéressé au boisé où Maïlyn a été retrouvée.
Oui, c'est ça, parce que sur la caméra de sécurité, là, où on voit le dernier endroit où Maïlyn a été aperçue, on la voit sortir de l'école, puis qui semble se diriger vers un quartier résidentiel. Puis comment ça fonctionne, c'est que ce point-là est pris, là, puis on fait un rayon de 300 mètres. Ce rayon-là n'incluait pas le boisé dans lequel elle a finalement été retrouvée. Là. Ça incluait seulement un tout petit boisé qui était sur le terrain de l'école, puis un quartier résidentiel. Donc, on a vraiment concentré les recherches là-dessus. C'est le lendemain qu'on a décidé d'élargir un tout petit peu le périmètre, puis on l'a retrouvé là, à seulement 550 mètres.
Qu'est-ce qui est déploré en cours jusqu'à maintenant? C'est qu'on a suivi les lignes peut-être trop fermé, trop préétabli d'un protocole encore? Comme un, je dis encore parce que c'était un peu ce qui avait été reproché dans le cas des petites carpentiers.
C'est ça. Bien, pour le moment, on n'est pas encore à l'étape des recommandations. Donc, le coroner se permet quelques commentaires, mais il n'y a pas de prise de position en tant que telle. Mais c'est sûr qu'il pose beaucoup de questions sur la raison pour laquelle les recherches ont cessé, pourquoi on n'a pas vérifié le boisé. Il y a des guides de pratique là, du SPVL qui demandent de vérifier dans un rayon de 1 km tous les sentiers, tous les endroits reculés. Puis ça, ça n'a pas été fait au complet. Là, les policiers se défendent en disant... C'est énorme, un rayon de 1 km. On a vérifié des endroits stratégiques, mais est-ce qu'on a passé au peigne fin là, tout le boisé puis tous les chantiers? Non.
Est-ce qu'on revient à la collaboration dans les questions entre les divers corps policiers dans ce cas-là de disparition, oui. Comme souvent ça se fait là, dans ce genre de dossier-là?
Oui, c'est ça. Bien, ce qu'on croit comprendre dans ce dossier-là, c'est que la Sûreté du Québec est venue en assistance le lendemain, donc le 7 novembre. D'ailleurs, la sergente de la Sûreté du Québec va s'exprimer cet après-midi. On ne l'a pas encore entendu. Mais la Sûreté du Québec était seulement un consultant. Donc, de ce qu'on comprend, ce n'était pas eux qui avaient la responsabilité de prendre les décisions sur la manière de procéder aux recherches. Mais on va en savoir plus cet après-midi.
Le sergent Pascal Bragagnolo, qui était responsable justement des recherches, explique qu'aux alentours de 21h, qu'on a décidé d'arrêter les recherches sur le terrain. C'était pour relâcher la pression et faire en sorte que la jeune fille sorte de sa cachette. Comment le coroner réagit à ça lorsqu'il l'entend, ceci?
Le coroner dit que c'est logique parce que c'est une stratégie qui est employée appelés dans des cas de fugue, vraiment. D'accord. Souvent. Mais la particularité avec ce cas-là, c'est que c'est pas un cas de fugue parce que la jeune fille avait pas l'habitude de fuguer. C'était pas une jeune fille qui était en consommation. C'était vraiment un profil d'une jeune fille qui avait des idées suicidaires. Donc, est-ce que c'est le protocole pour ce type de cas-là? Peut-être pas, mais ça peut être une stratégie qui est employée là, par les policiers.
J'aimerais ça qu'on revienne justement sur ces idées sombres-là parce que ça a teinté beaucoup la semaine sur le fait aussi qu'on revient avec une enquête du coroner. La première fois, on disait, bon, mort accidentelle pour la jeune fille. Là, on revient, puis c'est la première fois qu'on met sur la table ces idées sombres-là, si on va le nommer, là, suicidaire. Ça a un peu saisi tout le monde, c'est ce qu'on comprend. Comment tu l'as vu et vécu, toi, à l'interne, avec tous les acteurs de l'enquête en ce moment?
Oui, parce qu'il faut le mentionner, les parents sont présents là, tout au long de l'enquête. Avec leur conjoint, il y a le frère de Maëline qui est présent également. Puis, c'était connu là, dans sa famille qu'elle avait des idées suicidaires. Elle a déjà été hospitalisée pour ça. Puis même la veille de sa disparition, il y a eu une intervention d'urgence parce qu'elle cherchait un exacto pour faire de l'automutilation. Donc, c'était connu par sa famille, mais le nouvel élément qui a été apporté dans l'enquête, c'est l'existence du fameux texto là, dans lequel, le matin de sa disparition, elle mentionne à une de ses amies vouloir en finir, dire que c'est pas comme les dernières fois, qu'elle est à deux doigts de s'enlever la vie. Donc ça a vraiment été un gros développement dans l'enquête publique parce que ce texto-là ne figurait pas dans le rapport policier. Ce texto-là n'a pas été pris en compte par la coroner parce que la coroner se basait sur les rapports policiers. Donc ça a été un développement majeur puis on a réussi à l'obtenir dans l'enquête puis à le consulter, à le déposer en preuve.
Ses parents sont présents, notamment son père. Comment ils réagissent à tout ça?
Ses parents, pour le moment, sont très impassibles. T'sais, ils réagissent pas beaucoup.
Je pense que son père prend beaucoup de notes.
Oui, son père prend beaucoup de notes. Son père, c'est lui qui avait livré la bataille là, puis qui avait dénoncé les conclusions du rapport dans les médias. Donc, son père prend beaucoup de notes, puis les parents vont témoigner lundi prochain lors de l'enquête. Donc là, on va pouvoir les entendre. Puis également, la conjointe du père, qui, elle, est peut-être un petit peu plus émotive parce que ça a été mentionné là, comme quoi c'était une confidente un peu de la jeune fille.
Qu'elle a... Tu dis la conjointe du père, donc c'est
oui,
la belle-mère.
La belle-mère, c'est ça. T'sais, elle était au courant de ses idées suicidaires. Elle en avait discuté avec elle. Donc, c'est certain qu'on se met à sa place. Ça doit être difficile d'entendre, de réentendre tout ça en se disant « J'étais au courant de ça, puis il y a quand même un drame qui est arrivé. »
Un peu un sentiment de culpabilité, j'imagine, face à ça.
Tout à fait.
Malheureusement, un sentiment qu'il ne faut pas qu'elle ressente parce que je suis certain qu'elle a fait le maximum. Victoria, merci beaucoup pour cette mise à jour. On se tient au courant. On pourrait se refaire une petite mise à jour mardi prochain après le témoignage des parents.
Et ça va me faire plaisir.
Ça te convient? Cool. Merci beaucoup d'être passé en studio merci. Avec nous à Boulevard 102.1. Courte pause à l'émission On en jase. Par la suite, on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard de cette fameuse culture de l'annulation, cher Pascal, et de ce débat sur... le taux de natalité au Québec qui fait rage. Il y en a qui disent qu'on veut prendre en otage l'utérus des femmes et que Paul Saint-Pierre Plamondon est à la tête de ce mouvement. C'est ce qu'on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault. Il faut que je te fasse entendre également un bijou d'hymne national, mais un bijou dans le bon sens. Quelque chose qui, hier, j'ai vu en temps réel, puis en tant que patriote canadien, j'avais la larme à l'œil.
Mmh.
Je te présente ça au retour de la pause.
Je pense que je le sais, c'est quoi.
Ah ouais. 13h03, continue d'interagir avec nous à l'émission On en jase au 418-971-1021. Toujours un bonheur de vous lire. Vous avez été plusieurs à réagir sur la problématique des chauffeurs à rabais. On nous disait qu'il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose. Hein. On le rappelle, Pascal... Deux élus libéraux qui ont été vus dans un rassemblement, dans un événement d'une organisation qui appuie les chauffeurs à rabais. Donc, ça nous laisse très perplexes. Claudia Boucher, une victime, justement, d'un accident de la route causé par un chauffeur à rabais, a témoigné avec nous. Ça sera sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Également sur le blvd.fm, vous allez retrouver notre entrevue avec Laurent Dubreuil. Quel beau porte-parole en matière de sport et d'activité physique chez les jeunes qui a réussi à faire flancher le gouvernement investissement majeur de 750 millions dans le sport avec la mise à jour économique. Ce qui s'en vient dans l'émission, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. ex-rédacteur de discours pour François Legault. On va parler de cette culture de l'annulation. Hein. Il y a des gens qui ont dit « Hey, la librairie La Liberté, pourquoi vous avez amené Éric Duhaime pour son lancement de livre? » Ben, parce qu'Éric Duhaime a le droit d'écrire un livre puis de parler de sa prise de position. « Hey, Jean-Pierre Roy, t'as pas d'affaire à présenter ton... ton documentaire sur Génération Trans au Cinéma Quartier. » Là, malheureusement, les propriétaires du Cinéma Quartier ont dit « Ouais, devant la pression, on présentera pas. » On va parler de ça. On va parler aussi de cette dérive sur les ondes d'ici Première Radio-Canada cette fin de semaine entre l'animatrice Marie-Josée Arsenault et un professeur philosophe Xavier Brouillette où on dit que PSPP veut contrôler les utérus des femmes. Donc, c'est clair qu'on parle de ça avec Étienne Alexandre Beauregard. En fin d'émission, on aura Alex Laramin avec sa chronique sportive Match du Canadien ce soir. Et entre les deux, on va parler avec Georges Hinny, qui est président de l'Association pour la protection des automobilistes. Apparemment qu'on achèterait des véhicules électriques à rabais, Pascal, mais que le... Ben, pas apparemment, c'est un cas vécu par Mégane Fortin, une jeune étudiante dans la région de Mascouche. Mais le concessionnaire... à la base, peut effacer l'historique et faire en sorte que tu ne sais pas que ta batterie va être à remplacer bientôt. Tu achètes le véhicule 10-11 000, tu te retrouves avec une facture équivalente pour une nouvelle batterie quelques mois plus tard. Comment faire pour éviter ceci? Tu n'as pas d'argent pour t'acheter un char à 20 000, mais tu n'as pas le choix de dépenser 20 000 sur ton char finalement. Donc, Georges Hinny va nous renseigner là-dessus. Pascal, avant les manchettes, il faut absolument que je te fasse entendre ce beau moment hier avec notre hymne national canadien.
Oh, Canada, our home and native. Patriot love.
T'sais, là, le micro lâche. Caroline Pascal, on est au Canada. Tout le monde chante l'hymne national. Ah, ça doit être le match des Oilers d'Edmonton. Non, c'est un gars qui chante dans les estrades, les Oilers. Canadien jouait pas hier? Les sénateurs d'Ottawa sont éliminés. Ça s'est passé à Buffalo hier soir. J'ai vécu le moment en direct. Je venais de partir le barbecue en revenant du gym. Puis là, tout à coup, je m'approche parce que j'entends l'hymne national canadien. Puis je me dis, mais voyons, le match est à Buffalo. Et là, j'entends ça, ce micro lâcher. Et la foule se met à chanter le Haut-Canada. Quand on dit que le sport rassemble, là, on entend au Canada, ah, les maudits Américains, ah, le maudit Donald Trump. Puis là, la guerre États-Unis, Canada. Ben hier, à Buffalo, Buffalo qui fait toujours l'hymne national canadien par respect pour ses partisans qui viennent du Canada, parce que la ville de Buffalo est à 5 000 seulement, donc à peu près 10 km de la frontière.
Ouais.
Alors, 50 % de leurs billets de saison vendus sont des Canadiens qui viennent voir le hockey à Buffalo. Alors ça, premièrement, c'est de grande classe pour l'organisation de chanter l'hymne national canadien, même si c'est un match entre deux équipes américaines.
Pourquoi on chantait l'hymne national canadien quand c'était deux équipes américaines?
Exactement pour ça, parce que Buffalo, 50 % des partisans viennent du Canada,
okay, compte tenu que c'est proche de la frontière. C'est vraiment pour cette raison-là.
C'est pour... Okay. C'est pour
c'est pas juste proximité, c'est comme au total. En on a fait le calcul. OK, c'est
par
bon.
Par respect pour leurs partisans canadiens, on s'est dit, on fait l'hymne national à chaque match, ce qui est extraordinaire, comme marque de respect.
Ah ben, je trouve que... Écoute,
et là, hier, les Canadiens ont chanté leur hymne national.
Je trouve ça classe.
C'est fou.
Je trouve que c'est d'une classe sans bon sens, puis... Probablement que Donald Trump n'a pas aimé la scène si c'est venu à ses
ouais.
oreilles.
Puis mais moi, j'aime
dire,
ça.
Ça veut dire à quel point on est capable d'être proche quand même
oui.
des États-Unis, puis que dans ce débat politique-là, parce que moi, je le ramène un peu à la politique
ben oui,
malgré
tu
tout,
bien.
Tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est à ne pas oublier, qui probablement shake aussi du côté des États-Unis. Parce qu'on
vraiment.
A vu aussi une demande de passeport canadien en augmentation assez importante
oui.
dans les demandes américaines pour venir ici. Mm-hmm. Ils cherchent là, jusqu'à leur deuxième arrière-grand-mère à savoir si on a des racines canadiennes du côté des États-Unis pour l'avoir. Je trouve que le sport, il fait souvent écho de ce qui se ressent. Puis écoute, moi, j'ignorais, là, tellement que j'ai reposé la question, j'ignorais que le fait que ça soit aussi près du Canada, il y a autant de partisans, puis qu'on les considère même. J'aurais pas pensé qu'aux États-Unis, on ait mm-hmm. considéré ne
exactement.
Serait-ce que ceux qui prennent
ah non, c'est ce qui est beau, puis c'est pour ça que ça me permet un petit message éditorial aussi. C'est quand on dit « Ah, on n'ira pas voyager aux États-Unis parce que le maudit Trump... » Ben oui, il y a le maudit Trump, mais il y a les Américains qui
ouais.
ont énormément de respect pour nous, Canadiens, et on l'a vu hier ouais, dans les estrades, des sables barbe de Buffalo. C'était un moment de toute beauté. En attendant, Étienne Alexandre, beau regard. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, bien, ça vient de sortir, là, 99 occupants de la résidence privée pour aînés le long des berges. Ça, c'est au bord de la rivière Saint-Charles, donc c'est une RPA. Ils vont devoir se trouver un nouveau milieu de vie. C'est énorme, là, onde de choc quand même.
Vraiment?
99 personnes là, en situation quand même d'âgisme et de problématiques, en fait, dans un contexte où c'est déjà difficile de se trouver un milieu de vie. Nouvelle qui est tombée hier, résidence qui va fermer les portes l'automne prochain après 30 ans d'activité. Nouvelle tombée hier pour les résidents, mais il y a quelques minutes pour tous, donc les propriétaires de l'établissement à Limoilou qui comptent 106 unités locatives qui n'ont pas trouvé repreneur. Et ça, ça commence à faire un autre dossier, puis un autre dossier, puis un autre dossier qui s'accumule. C'est la troisième fermeture dans la capitale nationale. Alors, deux autres établissements pour un total de 34 unités locatives qui ont annoncé leur fermeture. En 2025, on est à trois établissements aussi. Ça retire 237 unités locatives sur le marché. C'est énorme.
C'est énorme. Là,
ça va être très difficile.
Et d'autant plus qu'on est dans une population qui vieillit davantage. Oui. Donc, va falloir rattraper ça et même en construire davantage.
Une autre nouvelle un peu plus locale, cette fois-ci du côté de la Rive-Sud, c'est l'administration Blainey qui veut bâtir malgré la réserve de ses ingénieurs. La réserve, ça veut dire où? Le pas de recul. Pourquoi? Sur les eaux usées. Donc, on vient d'autoriser la construction d'immeubles de 4 logements dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Mais son propre département de génie a levé un drapeau rouge. On a dit non, on n'est pas capable. La capacité de la station de traitement des eaux usées est pas bonne pour accueillir de nouveaux développements immobiliers. Ça pourrait poser problème. C'est un document qui a été soumis aux élus hier, mais on a quand même été de l'avant avec tout ça et ça fait un certain malaise aussi avec l'administration Blainey. Donc, on va suivre ça de près. Aujourd'hui, la nouvelle principale pour la province, c'est que la première ministre Christine Fréchette a annoncé une baisse d'impôts qui va profiter à 75 000 petites entreprises. C'était écrit dans la presse. On notait que c'était pas une mesure qui était dans le dernier budget provincial en mars dernier et qui ne figurait pas non plus dans les promesses faites par Mme Fréchette lors de sa course à la chefferie. Alors, on se demande est-ce que c'est un peu électoraliste? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Les conséquences? On est dans cette évaluation-là. Et je vous parlais du dossier santé numérique, comme quoi que ça continue de faire les manchettes pour les mauvaises raisons. Le déploiement est toujours prévu pour le 9 mai.
Ouais.
Santé Québec tient son bout là-dedans, mais il y a plusieurs acteurs du plancher qui disent « Ouais, non, c'est pas une bonne idée. » Et le docteur Daniel Vier en avait ajouté une couche aujourd'hui dans le Journal de Québec. C'est un médecin spécialiste en diagnostic et en traitement des maladies complexes et il avait dénoncé que le déploiement du DSN va entraîner des retards dans les traitements et les suivis de cancer. Et ça fait réagir, ça inquiète, tellement que là, on est en train de réagir aussi du côté du gouvernement. Là, on a comme repris cette information-là et on y a répondu. On dit que les cas urgents de cancer seront maintenus malgré les retards prévus et c'est ce qu'assure Québec. Donc, on est en train de sortir la balle, mais qui dit vrai? Il est là le problème.
Exactement. Donc, à suivre, mais somme toute, il faut prendre soin des gens qui sont atteints d'un cancer et leur donner un traitement très rapidement. Chaque jour compte lorsqu'on est atteint, malheureusement, de cette maladie. On va à l'instant même rejoindre Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault et analyste politique ici sur les ondes de Boulevard 102. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Étienne Alexandre, Olivier Niquet de Radio-Canada s'amuse à rire de stations de radio de Québec à coups d'extraits dans son émission La soirée est encore jeune. Mais nous, on va se permettre une petite pointe à l'endroit de Radio-Canada et de cette dérive sur la natalité au Québec. Je te laisse entendre Marie-Josée Arsenault, animatrice
Marie-Louise.
À ICI Première. Marie-Louise?
Oui, c'est Marie-Louise Arsenault.
Ah, j'avais mal noté. Merci beaucoup, Pascal CV. Marie-Louise Arsenault et Xavier Brouillette, professeur et philosophe. Ils parlent du taux de natalité, de la politique de natalité de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
Le travail rémunéré, souvent associé aux hommes, mais aussi le travail non rémunéré des femmes invisibilisées à la maison, dont le rôle était la reproduction de la force de travail.
C'est le contrôle de l'utérus.
Exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, on va pas même parler, Nancy Fraser, d'expropriation de l'expropriation, en quelque sorte, des femmes de leur propre corps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de reproduire la main-d'œuvre, et cette reproduction-là demande de produire des enfants. Et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, la femme devient essentiellement, l'image de la femme est associée à l'image de la mère de famille, celle qui produit les enfants, associée à l'espace domestique. Donc, de ce point de vue-là, les politiques natalistes de Paul-Saint-Pierre Plamondon, peu importe la justification qu'il dit, c'est quand même une certaine manière d'instrumentaliser le corps des femmes du point de vue, de ce point de vue-là, en fait, de la nation.
1,3 enfants en moyenne par couple, donc par famille au Québec. Le nombre désiré par ces couples-là serait de 2,1 enfants. Donc, on s'entend, les gens veulent au moins une famille de 2 enfants, mais n'y arrivent pas, notamment en raison du coût de la vie. Et là, quand Paul-Saint-Pierre Plamondon dit ça, bien, il prend possession du corps de la femme. Étienne-Alexandre, aide-moi, je ne comprends pas.
Bien, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas trop saisi la logique. Là, c'était assez tiré par les cheveux comme intervention. Je pense que ceux qui ont critiqué cette intervention-là étaient aussi dans le brouillard que nous. D'autant plus que M. Plamondon, à ma connaissance, n'a pas encore dévoilé de politique. Donc, si prise de contrôle du corps de qui que ce soit il n'a pas encore dévoilé son intention. Il a juste, à l'instar de 4 partis sur 5 en ce moment à l'Assemblée nationale, affirmer que pour lui, c'était un problème que les femmes, les familles n'aient pas autant d'enfants qu'ils le désirent. Puis ça, je pense qu'on réalise pas à quel point M. Brouillet, puis Québec solidaire aussi, qui aimait pas trop là, toute la question de la famille, sont seuls dans leur coin. Parce qu'on regarde dans les dernières semaines, là, il y a eu une sortie de Marois Risky qui a été très médiatisée sur cette question-là. Mais Karianne Bourassa, à la Coalition Avenir Québec, ça fait des années qu'elle parle de son propre parcours avec la fécondation in vitro, comment elle s'est battue pour devenir mère. Oui, le Parti québécois a embarqué dans le train aussi. M. Duhaime a dit aussi que pour lui, c'était une préoccupation que les gens puissent avoir des enfants s'ils en veulent. Donc, en fait, ils sont assez seuls dans leur coin à penser ça. Ça semble être assez général au Québec. On se dit que c'est une question qu'on a le droit de se poser puis qu'on devrait même se poser. Là.
Avant de poser une question, je veux juste dire que sur Henri IV-Sud, c'est le début de la sortie vers le chemin des quatre bourgeois. C'est partiellement entravé. Il y a un véhicule lourd qui est en panne et je le mentionne parce qu'avec la congestion un peu partout, des fois, il y a des endroits que si ça s'ajoute, c'est encore plus complexe. Alors, c'est dit Henri IV-Sud, début de la sortie vers chemin des quatre bourgeois, partiellement entravé, véhicule lourd en panne. C'est une chose, les gars, dont on discute en ce moment, qui est très sensible. Puis je pense que le fait d'aller dans les extrêmes, hein, l'un ou l'autre, premièrement, les droits de la personne, on va, j'espère, toujours les respecter au Québec. Il faut continuer d'en parler, il faut continuer de plaider pour. Là. Mais c'est tellement compliqué. Puis on se rend compte que beaucoup de femmes, du moins dans trentaine, là, à mon âge, tentent de tomber enceinte. Puis des fois, ça s'extensionne sur 4, 5, 6 ans, on va jusqu'à 7 ans. D'abord, il faut que tu prouves que tu n'as pas été capable d'avoir un enfant par toi-même, par voie naturelle. Ensuite, tu as insémination, ça veut dire, bon, la récolte de ton conjoint te fait, t'es inséré en toi, là, veux pas. Mm-hmm. Et parfois, ça va prendre jusqu'à 6 essais. Puis là, ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, tu attends un mois, là. 6 essais avant d'aller dans in vitro. Pour que tu aies cette subvention-là. Donc, pensez-y, là, le nombre d'années là, qui allongent la chose. Puis il y en a beaucoup qui en souffrent. Donc, d'entendre qu'ils ne font pas leur peur ou quoi que ce soit, ça peut être sensible. Là. Puis de fermer le débat à se dire, regarde, je comprends là, qu'il manque peut-être de naissance au Québec, mais qu'est-ce qui a causé ça? Au lieu de dire, on est en train de vouloir contrôler des gens.
En effet, c'est peut-être là le raison. Problème.
Ben oui, mais je pense qu'est-ce qui a causé ça? Il n'y a pas que ça, mais le coût de la vie, ça en fait partie. T'sais.
Ben oui.
Puis je pense que quelque chose qu'on devrait s'inquiéter, c'est pourquoi l'âge de la première parentalité, parce que c'est vrai autant pour les gars que les filles, n'arrête pas d'augmenter. Moi, ma petite théorie là-dessus, en tant que gars de 25 ans, c'est que les étapes de la vie adulte qu'on franchissait avant un certain âge n'arrêtent pas d'arriver plus vieux, que ce soit l'entrée sur le marché du travail, parce que maintenant, on exige des diplômes toujours plus élevés pour les mêmes jobs que nos parents avaient avant, que ce soit l'accès à la propriété, que ce soit même justement déménager de chez ses parents aussi, là, c'est lié, c'est pas exactement pareil, mais quand même, tout ça arrive plus tard. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une question. Puis moi, quand j'en parle aux gens qui sont à peu près de mon âge, aussi, il y a comme une petite frustration par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a comme une question générationnelle en arrière de ça aussi, de dire, il y a des gens qui disent, OK, j'aimerais ça commencer ma vie, j'aimerais ça arriver comme à l'étape d'après, mais c'est comme si le contexte économique en ce moment était pas vraiment propice à ça. Puis ça, d'ailleurs, quand on regarde les stats, là, beaucoup d'études sur cette question, questions-là qui vont vous dire que les périodes d'incertitude économique ou les périodes d'inflation, pas surprise, mais choc, ça a un impact sur la fécondité aussi, parce que les gens y arrivent moins, ils disent « OK, mais je suis moins capable de me projeter dans l'avenir, est-ce que c'est le bon moment? » Fait que c'est tellement multifactoriel, mais c'est pas vrai, par contre, qu'on doit rester sur la ligne de côté, se croiser les bras, puis dire « Bah, regarde, c'est tant pis pour eux autres ou c'est parce qu'ils en veulent pas. » Puis c'est là que moi, j'ai de la misère quand on nie qu'il y a un écart entre ce que les gens désirent, puis ce que les gens sont capables d'avoir en ce moment, puis que oui, le gouvernement peut faire quelque chose, parce que la qualité de vie des gens, ça fait encore partie des priorités de nos politiciens, je l'espère.
En effet, puis en faisant quelque chose, Étienne Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais ça va être vraiment en travaillant sur le coût de la vie, donc en donnant plus d'accessibilité à la propriété, en diminuant les impôts, en diminuant les taxes, en donnant un souffle aux contribuables.
Puis j'ajoute encore, les gars, là, que le coût de la vie, mais il y a le coût aussi de ce que ça a pour être aidé.
Ben oui, en effet.
Que tu n'es pas capable de tomber enceinte, là.
Absolument, absolument. Bon, cela dit, moi, j'ai jamais vu des chiffres sur la part insémination artificielle, etc. Mm-hmm. Fait que je me demande toujours la proportion dans ça. Je peux pas me positionner là-dessus. Là. Cela dit, la question du régime québécois d'assurance parentale, on pourrait aussi en parler, même Risky l'a mentionné. Puis ce qui est quand même intéressant en ce moment, c'est que la caisse du RQAP est excédentaire. Vous le savez, là, vous voyez vos chèques de paye. Il y a une case particulière qui part là. Ça fait pas partie du fonds général du gouvernement. Et ben, depuis plusieurs années, justement, en raison de la baisse de fécondité, on a une caisse qui est excédentaire. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait certainement se poser la question de dire est-ce qu'il faudrait que les prestations soient plus longues? Est-ce qu'il faudrait que ça soit mieux compensé? Parce que c'est vrai que, puis d'ailleurs, la plupart des parents vont choisir le régime à 55% pendant un an plutôt que 75% pendant moins de temps. Mais 55%, c'est pas une si grosse partie du revenu que ça. Fait que oui, il y a un coût de renonciation. Puis considérant les moyens qu'on a, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire ce coût de renonciation-là pour que ça soit plus facile pour le portefeuille aussi? Fait que c'est toutes des questions qu'on devrait se poser. Je pense qu'en voulant mettre un verrou là-dessus, comme M. Brouillette a tenté de le faire à Radio-Canada, comme quoi ça serait intrinsèquement mauvais d'avoir cette discussion et cette réflexion-là, on n'avance pas parce qu'il y a un enjeu. Là.
Ça m'amène, Étienne Alexandre, à te parler de cette culture de l'annulation. On vient de vivre deux événements dans la région de Québec qui le prouvent. Le premier, Jean-Pierre Roy, avec son documentaire « Génération trans », où il remet en question le fait que des jeunes à l'âge de 14 ans peuvent prendre la décision de changer de sexe. Ça a été annulé au cinéma Cartier devant, justement, l'insistance de gens qui étaient contre le documentaire. Et là, pas plus tard qu'hier, on apprenait que la librairie La Liberté a également aussi reçu des messages haineux en raison qu'elle a permis à Éric Duhaime de s'installer pour le lancement de son livre. Pourquoi la gauche aussi bas de débattre, Étienne Alexandre?
Ben, je ne sais pas. Puis moi, honnêtement, la question que je me pose, d'ailleurs, tu te rappelleras, Jeff, la conférence du PQ à l'Université Laval.
Ben oui, exactement, qui est un autre exemple. Hey, tu nous avais parlé, justement.
J'ai eu le malheur d'être un participant, absolument. Mais moi, quand je vois ça, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Parce que, me semble, c'est le genre de choses qu'on voyait à Montréal avant. Puis là, ça fait trois choses en quelques semaines.
Québec n'est pas rendu woke?
Ben, c'est ça que je me demande. Je me dis, on dirait le monde à Montréal, ils se sont calmés. Puis là, la vague est arrivée à Québec. C'est-tu le creux de vague? C'est-tu les restes? Je sais pas exactement.
C'est quoi, Montréal a déménagé à Québec parce qu'on est une trop belle ville? Hey, on va commencer à avoir des nids de poules, guys, là.
J'espère que non. Moi, c'est une expérience traumatique conduire à Montréal avec les nids de poules. Mais pour vrai, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que cela dit que Il faut montrer quand même le positif au sens qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont se mettre la tête sur le bio pour défendre ça, en disant que c'est légitime qu'une telle chose arrive. Surtout à la librairie de la Liberté, qui a reçu, je pense, un mois avant le lancement de livre de Rouba Gazal, qui fait la même chose pour Éric Duhaime. C'est quoi l'enjeu, là? Même si c'est une librairie qui disait on est ouvertement de droite et on ne reçoit que le PCQ,
il y a pas d'enjeu,
c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée, à ce que je sache. Fait qu'ils ont le droit de recevoir qui ils veulent. Puis ça serait très malheureux qu'ils soient victimes d'un boycott ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que c'est un peu l'inverse qui se passe. Il y a une espèce de boycott. Là. J'ai vu quelques personnes, Jacinthe Varel, que vous connaissez bien, Jérôme Landry, compétiteur, qui sont allés acheter des livres là aujourd'hui. Moi, c'est une librairie que j'apprécie beaucoup. Fait que j'invite tout le monde à y aller. Ils ont un excellent répertoire. C'est ça. Je pense qu'il y a un peu l'effet inverse là, au sens où les gens sont assez tannés. Puis quand tu vois ça, ils disent, ben regarde, une entreprise qui a le courage de ses convictions, qui a le courage de défendre la liberté d'expression, ben, peut-être que ça vaut la peine qu'on aille acheter là.
T'as entièrement raison. Hey, si moi, là, je pense que ça serait bien d'ouvrir le débat parce que je me dis que on veut interdire les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. On veut interdire les médias sociaux pour les moins de 16 ans. On interdit déjà l'alcool et la cigarette pour les moins de 18 ans. Puis le consentement sexuel est à 16 ans. Si je veux ouvrir le débat pour dire que 14 ans, c'est trop jeune pour changer de sexe, je vais-tu être associé à une droite radicale ou c'est juste normal que je me pose cette question-là?
Ben, c'est sûr, moi, je tends à être d'accord avec toi sur cette question-là. Mais fais attention, peut-être que les annonceurs de boulevard vont avoir des appels. On est une radio à Québec, puis maintenant, il n'y a plus personne à Québec qui est en sécurité.
C'est plus safe de dire ça, là. C'est ça que tu es en train de me dire.
Pense-y.
Pourtant, je trouve ça juste logique.
Ben, honnêtement, oui. Puis, tu sais, on s'entend, le gouvernement a mandaté un comité de sage aussi sur cette question-là dans les dernières années. Il n'y a pas eu de suivi conséquent sur les questions de santé par rapport à ça, alors que je pense que l'inquiétude de la plupart des gens par rapport à ce phénomène-là, c'est vraiment quand ça touche les mineurs, mm-hmm. quand ça touche des je n'appellerais pas ça des soins, mais des procédures médicales qui sont irréversibles. Puis là, moi, je pense qu'il y a une question à se poser parce qu'effectivement, c'est comme tu dis, ici, on juge que pour certaines décisions dans la vie, pour quelque chose d'aussi banal que de voter, on n'est pas assez mature. Ben, est-ce qu'on est mature pour prendre des décisions qui vont avoir un impact pour l'ensemble de notre vie? Et ça, c'est pas invalider le droit de s'identifier comme personne trans ou d'avoir une reconnaissance légale de ça, mais c'est toujours la question du moment, puis c'est quoi l'encadrement, puis c'est quoi aussi les choses qui sont médicales, qui sont intrusives, qui viennent avec ça. Fait que je pense que c'est des questionnements qui sont tout à fait légitimes, puis peut-être que le gouvernement va y mettre un peu d'attention. On en entend un peu moins parler qu'avant, mais en tout cas, certainement que ça ne mérite pas d'être, exclu du débat public parce qu'on se pose ces questions-là. La plupart de nos concitoyens, se posent la même question.
C'est clair. En terminant, Étienne Alexandre, qu'est-ce que tu penses des premières semaines de Christine Fréchette à titre de première ministre du Québec? Crois-tu que les actions qu'elle pose actuellement, notamment ce qu'elle a fait aujourd'hui pour les PME, vont faire monter la CAQ dans le prochain sondage?
Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de mesures qui te veulent une réponse à la question du coût de la vie, que ce soit pour les individus, pour les entreprises. On s'entend, je pense, le premier acte de Mme Fréchette, ça a été quelque chose pour l'accès à la propriété sur les taxes de bienvenue.
Oui.
Après ça, on doit annoncer une mesure pour l'épicerie, qui, je pense, n'a pas été encore exactement fignolée, là, donner un mandat à M. Girard. Là, aujourd'hui, on est arrivé avec toute la question des baisses d'impôts pour les petites entreprises. Mais moi, honnêtement, si j'étais dans son cabinet en ce moment, pas sûr dans lequel j'ai déjà été avec un premier ministre précédent, je dirais il faut trouver la cohérence derrière tout ça. Il faut trouver comme le fil directeur que tu vas être capable d'expliquer aux électeurs. Parce que des fois, j'ai l'impression que nos politiciens se perdent dans des mesures qu'on appellerait boutique là, en anglais, c'est-à-dire une chose qui peut sembler un peu clientéliste, on donne telle affaire à telle personne et tout, mais c'est bien, 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 bien rare que les gens ils votent sur des choses comme ça. Fait que si le défi, si le mandat, c'est d'aller chercher l'adhésion de la population, qui est, bon, un peu cynique, désenchantée par rapport à ce gouvernement-là qui est là depuis 8 ans, mais il faut trouver une cohérence, il faut trouver un narratif, il faut trouver dans quoi est-ce qu'on s'incarne. Puis ça, le côté politique au sens fort, le côté narratif, j'ai l'impression que c'est peut-être moins une force de quelqu'un comme Mme Fréchette qu'on identifie comme étant plus technocratique, comme étant plus proche de la machine, plus regarder sur les indicateurs économiques, etc. Mais le côté, comment est-ce que je m'enrichis mon action, comment est-ce que je me positionne par rapport aux autres partis, ça veut dire quoi être un caquiste à l'époque de Christine Fréchette? Tout ça, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de points d'interrogation qui sont en suspens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les oppositions, que ce soit le Parti québécois ou le Parti conservateur, sont en train de cruiser, comme on pourrait dire, assez activement, les électeurs qu'on dirait plus bleus de la coalition Avenir Québec. Je pense que ça va être ça, le gros défi de Mme Fréchette en ce moment, parce que s'il y a d'autres gens qui sont plus politiques, qui sont meilleurs pour arriver avec une histoire de pourquoi tu devrais changer de bord en ce moment, ben peut-être qu'il y en a qui vont le faire. Fait que c'est de voir comment est-ce que tu peux mettre en récit ton action pour rendre ça cohérent, pour aller rechercher des gens aussi, puis pour s'incarner vraiment dans la joute politique, puis dire par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe en ce moment?
J'aime beaucoup où est-ce que tu nous amènes, chemin, que cette trame de fond, cette histoire, ce narratif qui devra être recollé. Étienne Alexandre, toujours un plaisir de se parler. On se reparle bientôt.
Absolument, salut.
Salut, Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur de discours pour François Legault. Il a fait ça il y avait 21 ans. C'est quand même assez incroyable, son parcours en politique, malgré son jeune âge. Hey, quel beau texto qu'on a reçu, Pascal. Maman de deux enfants et on en voulait trois. Mais avec les places en garderie inexistantes, c'est très stressant pour le retour au travail. Ouais. Tellement bon point.
Ben, moi, je pense qu'il y a plein d'affaires. Là. Le fait d'avoir de la misère à concevoir puis qu'il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. T'sais, c'est quoi qui a mené à ceci? Plein de scientifiques qui essaient de se poser la question. On n'est pas capable d'avoir de réponse. L'autre affaire, ben, il y a tout cet enjeu-là de garderie, de pouvoir retourner sur le milieu du travail.
Ben oui.
Il y a les prestations d'aide aux parents aussi, là, pendant que tu es en congé de maternité, puis la paternité, tout ça. Es-tu capable d'avoir assez d'argent pour nourrir ta famille?
En
le
effet.
Coût de la vie, la hausse de les loyers. Il y a tellement,
tellement de
facteurs.
Énormément de.
Les écoles
de
débordent.
Ah oui, je suis content d'avoir eu mes enfants, là, de ça, 18 et 16 ans. Me poser un peu moins de questions.
Quand les maisons ont été à 30 000?
Ouais, ben pas 30 000, mais.
Hey, hey, le écoute, plus beau que tu as vu, toi, pour une maison?
Ben moi, le
vu?
Premier jumelé que j'ai acheté, c'est 155 000.
Le jumelé.
Un jumelé. Mais c'est pas cher, là. Les jumelés, là, ça se vend 300 000
oui,
à ce
temps. Oui. 88-971-1021. Ouais, quelle année, quel genre de maison? Wow.
Très bonne question.
Le moins cher que vous avez eu à payer. Là.
Ouais.
On veut trouver c'est qui a payé pas cher.
Excellente question. Dans quelques instants, Boulevard 102 à l'émission Nangeance, on parle avec Georges Génie, président de l'Association pour la protection des automobilistes. Faites attention quand vous achetez un véhicule électrique d'occasion. La batterie pourrait être sur le point de vous lâcher. Puis c'est des coûts de 10 à 15 000 $. On en parle avec lui.
On en jase. Face de l'aéroport.
On en jase. Jusqu'à 14 heures. On en jase.
À la météo, profitez de la journée d'aujourd'hui. 19 degrés cet après-midi, alternance de soleil et nuages. Parce que demain, c'est 9 degrés, pluie parfois forte. Ça va être 10 à 20 mm de pluie. Vendredi, la pluie va se poursuivre à 6 degrés. Mais ce week-end, 10 et 11 degrés, alternance de soleil et nuages. Je salue tous les coureurs, autant samedi qui feront le 5 et le 10 km à Lévis que les 5000 participants de mi-marathon de Lévis. Dimanche, j'y serai. Alors, bien hâte de vous voir. Si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à me dire un beau bonjour et à me serrer la pince, ça va me faire plaisir. Belle journée active, je fais le demi-marathon, puis après ça, Hawaï au flag football avec Edou, c'est son après-midi de flag football. Ça va être le fun.
Vraiment beau week-end à l'extérieur.
Oh yes! Circulation de Pascal!
Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Henri IV Sud, début de la sortie vers le chemin des Quatre Bourgeois. Ça, c'est partiellement entravé. Il y a un véhicule lourd qui est en panne. On essaie de tasser le véhicule lourd, mais ça ralentit le secteur. Et en raison d'une collision, il y a aussi le boulevard Pierre-Bertrand qui est bloqué en direction sud en ce moment. Et ça, c'est à partir de la rue Desrochers. C'est dans le secteur de Vanier. Il y a des détails qui sont à venir, mais un accident qui devrait être vraiment pas facile sur la circulation.
Demain, je vous invite à être à l'écoute exactement à cette heure-ci, aux alentours de 13h30, parce qu'on va annoncer avec le Fonds philanthropique Catherine Guillet un projet qu'on va faire pour les femmes défavorisées. Donc, pas besoin de Santé Québec. Nous autres, on va les soigner. C'est en partenariat avec la clinique Ovel. Donc, mon amie Caroline sera là en onde. Et également, la gang de Big Muff va être avec nous parce qu'on va, par le fait même, annoncer une activité de financement avec le groupe Big Muff. Groupe Big Muff, ils ont une nouvelle mouture acoustique. On va-tu annoncer ça demain? Soyez à l'écoute aux alentours de 13h30. En attendant, ce matin, dans les médias, on apprenait, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est Mégane Fortin, une jeune étudiante de Mascouche qui s'est achetée une voiture d'occasion électrique. Puis après seulement quelques mois, patate, c'est terminé, il faut remplacer la batterie. Donc, le char qu'elle s'était payé à 10 000 $ en disant « Moi, j'ai juste 10 000 $ est devenu un achat de 20 à 22 000 $. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire attention à ces véhicules usagés électriques? Et qui de mieux pour répondre à, sa question, à cette question que le président de l'Association pour la protection des automobilistes, Georges Hénie, qui est au bout du fil? Monsieur Hénie, merci beaucoup pour votre participation à l'émission On en jase. Oh, est-ce que monsieur... Ah, attends une minute. Je pense que... L'erreur était de mon côté, Pascal. Monsieur Hénie, merci pour votre participation.
Bonjour, je suis là.
C'est incroyable. C'est moi qui n'avais pas pesé sur le bon bouton, Monsieur Hénie. Je m'excuse grandement.
C'est pas grave. Je savais qu'on m'attendait.
Monsieur Hénie, est-ce que l'épopée vécue par Mégane Fortin, cette jeune étudiante qui s'est acheté un véhicule électrique d'occasion, pourrait arriver à n'importe quel consommateur?
Oui, mais il y a quand même un moyen peut-être de mettre les chances sur son côté. La première, c'est d'éviter les modèles à problème. Alors, Nissan Leaf, les batteries sont pas bonnes. parfois le propriétaire d'une LIF va le donner, la donner en échange. Et on n'a pas fait les vérifications nécessaires. Alors, quand le véhicule revient sur le marché, c'est l'acheteur éventuel qui apprend la mauvaise nouvelle. Je dirais aussi les véhicules électriques Volkswagen, le ID4, un achat très risqué parce que le manufacturier et les concessionnaires ont de la difficulté à les réparer. Ils n'ont pas les pièces. Donc, premièrement, il faut faire sa recherche. Deuxième suggestion, c'est avant même de trouver le véhicule qui vous intéresse, essayez de trouver le garage pour l'inspection. Et ça veut dire possiblement un concessionnaire parce qu'il, de la même marque, parce qu'il sera équipé de l'outillage pour interroger la batterie. Ou sinon un spécialiste de véhicules électriques qui spécialise dans la marque de véhicule que vous prévoyez acheter.
Parfait. Parce qu'au niveau du récit de Mégane, c'est la batterie, là, justement, qui tombe au combat. Et ça, ce que je comprenais, c'est que le concessionnaire, à l'origine, a enlevé, justement, des alertes qu'il y avait eues pour permettre au véhicule de fonctionner, ce qui fait en sorte que le concessionnaire de véhicules d'occasion n'avait pas cette information-là. D'où l'importance de faire l'inspection.
Le marchand de véhicules d'occasion est quand même tenu à fournir une garantie. Et aussi à vérifier le véhicule avant de la préparer à la revente. Il faut quand même dire que la consommatrice, dans ce cas-là, elle est mieux placée que quelqu'un qui aurait acheté un véhicule d'un particulier, parce qu'à ce moment-là, le particulier pourrait vendre sans garantie. Tandis qu'ici, le marchand a de la difficulté à s'en sortir. Je dois vous dire aussi, avant la huitième année, presque totalité des véhicules électriques ont une garantie. Chez Toyota, c'est jusqu'à 10 ans pour leur hybride. Ont une garantie sur la batterie. Alors ça peut aider. Ça peut soulager la personne, mais la contrepartie des manufacturiers permettent une certaine usure de la batterie. Un peu comme votre téléphone portable. Normalement, jusqu'à 30% de perte d'autonomie, parfois jusqu'à 40% est toléré avant qu'on remplacerait les batteries en vertu de la garantie d'origine.
Donc ça veut dire que si j'achète un véhicule usagé électrique qui peut être exemple de 5, 6 ou 7 ans, il faut que je m'attende à ne pas avoir le nombre d'heures d'autonomie promis à l'achat du véhicule neuf.
Oui, mais la différence n'est pas marquée. Si c'est un modèle avec une bonne durabilité de batterie, les Tesla, par exemple, maintiennent leur autonomie avec l'âge, mais on perd un 3-4% tous les ans. C'est évident, après 10 ans, 4% ou 3%, ça pourrait être important. Mais dans les premières années, on ne s'en rend pas compte. La difficulté, c'est que si vous trouvez le véhicule qui vous intéresse, vous vous promenez dans un garage pour une inspection, et ils ne sont pas spécialisés dans les véhicules électriques. Ils peuvent faire les freins, la suspension, la direction. Les vérifications routinières sont possibles, mais interroger la batterie normalement, soit demande une procédure spéciale ou un outillage spécial. Les concessionnaires ont la formation pour le faire. Ce n'est pas nécessairement la meilleure place pour réparer. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à aider un client à l'achat d'un véhicule d'occasion. Alors, ils vont vous donner un rendez-vous pour l'inspection dans 3 semaines. C'est évident, la plupart des gens perdraient leur occasion. Un vendeur ne va pas garder une auto 2 semaines ou 1 semaine. D'où l'avantage de faire sa préparation d'avance. Trouver un concessionnaire qui serait prêt à accepter l'auto sur un délai de, admettons, 1 jour ou 2. Et pour faire la vérification, interroger la batterie et vérifier le reste. Des fois, on va proposer au consommateur une garantie supplémentaire ou même c'est inclus dans le prix de l'auto et les gens achètent à ce moment-là en confiance. Mais il y a plusieurs mises en garde. La première, c'est que ces garanties-là, à ma connaissance, la totalité exclut la batterie.
OK.
Et parce que pour eux, la batterie, c'est comme une usure normale. Mm-hmm. Ça tue, ça ne les regarde pas. La deuxième, c'est qu'il y a des limites sur la réparation. Alors, parfois, la limite peut être aussi faible que 5 000 $. Ça, ce n'est pas assez pour une réparation importante.
D'accord, on comprend très bien. Monsieur Hennie, merci infiniment pour vos judicieux conseils. Je suis certain que l'ensemble de nos auditeurs à Boulevard 101 sont maintenant mieux outillés pour l'achat d'occasion de véhicules électriques. On vous remercie énormément de votre participation.
Plaisir.
Merci, au revoir. C'était Georges Hennie, président de l'Association pour la protection des automobilistes. Des judicieux conseils pour un achat de véhicules électriques, notamment, ben, faites-le vérifier par des professionnels. Parce que comme ça, ils vont pouvoir vous dire si la batterie t'a changé.
Prenez pas de chance. Mais en plus, avec l'engouement de l'électrique, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont vouloir faire la transition. Mais c'est poche quand là, ton argent est passé dans une pomme pourrie.
En plein, ce qui est arrivé à Megan Fortin, cette jeune étudiante de Mascouche. Hey, Mascouche, pas loin de Montréal, ça, Pascal?
Oui, pourquoi?
Montréal, il y a le Canadien qui est là-bas.
Oui.
Puis le Canadien est à Tampa Bay pour jouer contre le Lightning ce soir, 5e match de la série. Série égale 2-2. À qui qu'on parle d'habitude à l'émission On en jase pour ça?
Dans un instant, Alex Laramé.
Alex Laramé.
Qu'est-ce qui est le pire? Se faire pogner avec sa maîtresse à Coldplay? Utiliser ta femme enceinte comme bouclier humain? Ou laisser ta femme derrière puis partir en panique?
Laisser ta femme derrière puis partir en panique.
Ah ouais, mais sa femme a son bébé dans le corps. Son premier réflexe, c'est d'utiliser comme bouclier.
Écoute! Je suis convaincu que la femme ne peut pas rester avec.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
C'est la saison F-Sport chez Boulevard Lexus. Obtenez le NX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 808 $ par mois et le RX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 878 $ par mois. Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter, votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux.
Envie de renouveau ce printemps? Nous aussi! À l'Institut Diva, on s'est refait une beauté avec un tout nouveau site web et une boutique en ligne repensée. Offrez-vous une pause avec nos services de coiffure, massothérapie et esthétique. Rendez-vous au institutdiva.com.
Les tournois services de pneus Next Drive et Napa Auto Pro présentent le Salon Autosport XPN du 1er au 3 mai au Centre de foire d'Exposité à Québec. Le plus gros salon intérieur-extérieur jamais fait au Canada. Concours d'hommes forts, démos de CHN, pistes de drague, de karting, circuits de rallye, concours d'arrêt au puits et exposition des plus beaux véhicules, auto, moto, VTT, motoneige, camion et plus encore. Du 1er au 3 mai, c'est le Salon Autosport XPN. Collaboration Budweiser, Richard et compagnie et Reflex Time.
Clôture Nordique Orléans, la référence en installation de clôture de verre composite, acier ou aluminium. Service clé en main avec plus de 30 ans d'expertise. Profitez de nos promotions en visitant notre salle de montre. Soumission gratuite. NordiqueOrléans.com.
Chez Desharnais, ce sont de vrais mécaniciens de famille. Des gens de confiance de génération en génération. Et ça, c'est juste parfait. Parfait pour la mécanique, pour les pneus. En fait, pour un véhicule en santé.
Du 20 avril au 3 mai, obtenez un rabais instantané jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Toyota Tires sélectionnés. Une offre exclusive, .s. Toyota Tires, pour un plus haut degré de sécurité. Détails et rendez-vous en ligne sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle. Puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main. Quelqu'un qui m'accompagne, là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Le Festival des insectes spécial Cameroun débarque à Québec les 9 et 10 mai au Centre de glace Intact Assurance. Manipulez de véritables insectes exotiques rares, observez-les de près et vivez une expérience unique pour toute la famille. Au programme, chasse au trésor avec prix pour tous les enfants, jeux et animations. Des centaines de spécimens exotiques vivants vous attendent. Entrée gratuite pour les enseignants et le personnel de service de garde. Billets sur labibitmobile.com ou à la porte. Fier partenaire de Weekend 91.9 et Boulevard 102.1.
La vente étiquette rouge est de retour. Découvrez le Toyota BZ 2026 prêt à prendre la route avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin. Encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante. Et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente des tickets rouges, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14 h.
Canadien Lightning, cinquième match ce soir à Tampa Bay. Mais avant d'en parler, Pascal CV, quels sont les deux dossiers là, qu'il y a des mises à jour importantes à savoir pour nos auditeurs?
Assurément, le dossier par excellence à Québec, c'est le décès de Maëline Lugé. Confusion des rôles à la police de Lévis, c'est ce qu'on dit. Là, cet après-midi, on entendait la Sûreté du Québec. On doit être là-dedans au moment où l'on se parle, mais le service de police de la ville de Lévis a demandé aucun renfort le soir de la disparition de la petite Lugé qui a été retrouvée sans vie. Le lendemain. Et c'est ça qui fait réagir en ce moment. Et c'est ce qu'a affirmé le sergent-détective Pascal Bragagnolo du SPVL. Lui était responsable de l'enquête qui entourait cette disparition pour l'adolescente de 13 ans en novembre 2025. On est à la troisième journée de l'enquête publique. Bien sûr, ça continue. Et une autre cause importante, cette fois-ci, c'est dans la tuerie de Tumbler Ridge. Vous le savez, les familles des victimes pensaient poursuivre OpenAI. C'est maintenant confirmé. On va le faire aux États-Unis. Donc, on juge que OpenAI avait à voir dans le fait d'être proactif au moment où il recevait de l'information d'une personne qui souhaitait avoir de l'info justement sur comment faire une tuerie.
Et circulation, est-ce qu'il y a encore des problèmes?
Oui, on a encore deux problèmes, deux points chauds. Je vous dirais Henri IV Sud, sorti vers le boulevard Champlain, partiellement entravé. Il y a un véhicule lourd qui est en panne. Et en raison d'une collision, il y a aussi le boulevard Pierre-Bertrand qui est présentement bloqué en direction sud à partir de la rue Desrochers.
On va rejoindre Alex Laramé, notre chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Alex, c'est confirmé, Brandon Gallagher va faire partie de l'alignement de départ ce soir. Oliver Kapanen se retrouve dans les estrades. On avait besoin d'un vétéran pour sécuriser les jeunes. On avait besoin d'énergie. C'est un bon choix de Martin Saint-Louis.
Ben moi, je pense que oui. Là, surtout dans la série qu'on voit, tu sais, série très physique, il y a beaucoup de pénalités. Là. Moi, je pense que Gallagher va aller se mettre dans le nez de Andrei Vasilevski, se mettre dans ses shirts, essayer de le déranger le plus possible. Puis, tu sais, Kapanen a eu une super belle saison, mais en série, il était complètement invisible. Donc, je pense que c'était vraiment la décision à prendre du côté de Martin Saint-Louis. Puis très content qu'il prenne avant qu'on fasse face à l'élimination. Donc à 2-2, là, je pense que c'était le temps de bouger un peu l'alignement.
Zachary Bolduc, en point de presse tout à l'heure, a dit « On a oublié le dernier match. On regarde vers le futur. On a eu 48 heures pour se remettre de ceci. » Est-ce que tu crois que le Canadien est bien disposé mentalement?
Ben, je pense que oui. Là. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est peut-être l'aspect physique de certains joueurs. Juraj Slafkovský, Josh Anderson ont raté l'entraînement hier. Vraiment. C'est quand même deux gars. C'est pratiquement les deux meilleurs joueurs du Canadien là, depuis le début de la série. Donc, s'ils ne sont pas à 100%, ça pourrait paraître dans le match. Mais il y a d'autres joueurs qui doivent se lever. Là. Ce soir, il faut voir Nick Suzuki, il faut voir Cole Caulfield, il faut voir un Ivan Demidov. Ça va être les gros canons du Canadien à un moment donné qui vont devoir se lever. On ne peut pas toujours espérer des buts de Josh Anderson puis de Lane Hudson. Là. Ça va prendre d'autres joueurs qui viennent produire à l'attaque. Sinon, ben, on n'arrivera pas à passer à travers du Lightning.
Je suis clairement d'accord avec toi. Compte tenu que j'ai pris Tampa Bay en 7, je vais y aller avec une victoire du Lightning ce soir, 4-2 avec un but dans un filet désert. Quelle est ta prédiction?
Moi, je vais y aller aussi avec une victoire du Lightning, là, puis avec l'apparence de la série. On va y aller avec un autre 3-2. 3-2
ah,
Lightning
ben ouais,
ce soir.
3-2. En tout cas, un match par un but, on ne se trompe pas jusqu'à présent dans cette série-là. Ce soir, les Penguins de Pittsburgh affrontent les Flyers de Philadelphie. À Philadelphie, c'était 3-0 dans la série pour les Flyers. C'est maintenant 3-2. Sidney Crosby a recommencé à jouer comme s'il avait 22 ans. J'y vais avec une victoire des Pingouins puis un coup d'être là, un genre de 5-2 avec deux buts pour Crosby.
Ouais, moi à 3-0, j'y croyais plus, là, mais là, je veux dire, les Pingouins, ils ont le momentum, puis on sait ce qui se passe du côté des Flyers. Hein, Matvei Michkov qui a été laissé de côté. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu une discussion assez animée là, entre lui puis Daniel Brière et le coach Tocchet. Honnêtement, ça a l'air de brasser du côté de Philadelphie, puis les Pingouins, on le vend dans les voiles. Moi aussi, je vais avec une victoire des Pingouins ce soir. Là, un bon 4-2 ce soir.
Le Mammouth de Utah visite les Golden Knights de Vegas. C'est à 22h. Vegas a gagné le dernier match en prolongation. C'est 2-2 dans la série. Je vais y aller avec les vétérans de Vegas à contre-cœur. Une victoire serrée à bas pointage de 2-1.
Non, moi, je pense que Utah, ils ont tout pour gagner ce match-là. Je les ai pris dans la série, là. J'ai envie de croire en eux. Selon moi, ils vont revenir fort là, après la défaite en prolongation. Puis je leur souhaite une victoire de 3-1 ce soir.
Hier, les Bruins de Boston ont réussi à se sauver avec la victoire de 2-1 et à éviter l'élimination. Les Oilers d'Edmonton, 4-1 sur les Ducks. Bon, les Bruins, je crois pas qu'ils soient capables de revirer cette série-là, mais les Oilers, j'ai l'impression qu'on peut justement combler le record et l'emporter en 7.
Ben, en fait, moi, ce que j'ai trouvé hier, c'est Boston, c'est David Pastrnak qui a marqué le but. T'sais. Ces genres de joueurs-là, quand on arrive vraiment crunch time, on a besoin d'un but. C'est tes gros joueurs qu'il faut qu'ils se lèvent, puis Pastrnak le fait. C'est pas son premier but gagnant. Je pense qu'il y a quelques saisons, là, en 2023, il avait éliminé les Leafs aussi avec un but en prolongation. Fait que ça prend des joueurs des grands moments. Puis du côté des Oilers, ben, on en a plusieurs de joueurs de grands moments. Là, McDavid, Draisaitl, on peut commencer par eux autres. Donc, moi aussi, je pense que les Oilers, là, l'expérience pourrait remonter. Ouais, moi, je pense que ça pourrait être une bonne fin de série là, pour ces deux clubs.
Alex Laramée, je te souhaite une excellente soirée de hockey. On se parle demain aux alentours de 12h50 de ce match entre le Canadien et le Lightning. Bonne soirée, mon ami.
Yes, à toi aussi, là.
Bonne soirée. Vous rappelez que dans les autres sports, 19h30 ce soir, les Raptors de Toronto affrontent les Cavaliers de Cleveland. C'est à Cleveland, c'est 2-2 dans la série. Puis si vous êtes amateur de sport, ben dites-vous que les Jays jouent cet après-midi, 15h07, contre les Red Sox de Boston pour compléter leur série de 3 matchs. Mathias Turcotte s'en vient dans le retour tout à l'heure. Point de presse de Bruno Marchand, point de presse de Stéphane Lachance. Devra avoir du stock rien qu'en masse pour divertir Denis Gravel, Véro et Audrey. Pascal, on se dit à demain.
Sans faute.
Salut, à demain.
Salut.